BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Good evening business comme tous les soirs. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, il y a donc ce chiffre absolument effrayant qui est tombé il y a quelques heures. 60 milliards d'euros. Il va falloir faire 60 milliards d'euros d'efforts l'an prochain pour boucler notre budget. Je dis effrayant parce qu'on n'a jamais fait ça tout simplement en France. Alors est-ce qu'on peut tenir ça? On va voir ça avec Thomas Asportas, puis vous poserez bien la question à vos invités.
Absolument, mon invité, c'est simple, c'est Renaud Dutreil. Le pacte Dutreil, certains disent, voilà, il est trop généreux. On peut gratter quelques millions, quelques dizaines de millions, voire un peu plus. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il y a des abus? La réponse de son fondateur, Renaud Dutreil. Et puis, notre économiste préféré, Jean-Marc Daniel, il publie « Nouvelles leçons d'économie ». C'est un voyage dans le temps, comme quoi les dépenses publiques, ça existe depuis Mathusalem. Il nous expliquera si c'est vraiment nocif pour la croissance ou pas.
L'histoire est un éternel recommencement, on en parlera bien sûr. Dans l'actualité ce soir, bien sûr, les prix du pétrole qui restent stables. On est dans l'attente et dans la crainte des représailles israéliennes sur l'Iran. Jusqu'à quel point est-on immunisé contre une hausse des prix du pétrole? On posera la question aussi ce soir. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc ce chiffre absolument effrayant, on va le dire comme ça, qui est tombé ce matin et qui fait encore causer ce soir. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
60 milliards d'euros d'économie. Il va falloir faire 60 milliards d'euros d'économie pour réduire
d'efforts.
Nos déficits. Oui, d'efforts, pardon, au total. Oui. Est-ce qu'on va y arriver, Thomas?
Alors ça, c'est pas moi qui vais m'en occuper, donc je sais pas, mais en tout cas, on a tout intérêt à y arriver puisque c'est ça qui devrait nous ramener vers une petite baisse de déficit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un montant sans précédent. C'est ce que nous ont indiqué ce matin les nouveaux locataires de Bercy avec le directeur de cabinet de Michel Barnier. Et je vous dis, c'est un effort sans précédent pour descendre une petite marche parce que c'est pour permettre au déficit qui serait de 6,1% cette année, c'est la cible fixée par le nouveau gouvernement, pour le rabaisser à 5. Donc pour faire une petite marche, un point de déficit en moins, on ferait 60 milliards d'efforts. 60 milliards d'efforts, en vérité, c'est 2 points de PIB d'efforts. Enfin, 60 milliards, c'est 2 points de PIB aujourd'hui. Oui. Pour passer d'un déficit qui passerait à 7% l'année prochaine si on ne faisait rien, à 5% donc en 2025. Et ces 60 milliards, je vous corrigeais tout à l'heure, c'est que 60 milliards d'efforts, parce qu'on a 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausses d'impôts. Sur les hausses d'impôts, Bercy n'en a pas dit plus. On nous renvoie à la présentation du budget la semaine prochaine, ce sera le 10 octobre, pour avoir tous les détails. On a quand même eu une petite info, il y aura l'année prochaine 1,5 milliard d'euros de hausse de taxes pour verdir l'économie, 1,5 milliard d'euros de taxes vertes en plus, avec un durcissement, par exemple, du malus sur les véhicules les plus polluants et sur la fiscalité des transports aussi les plus polluants.
Donc 20 milliards de hausse d'impôts et donc, on disait en parallèle, 40 milliards d'euros d'économie, c'est ça, hein?
Exactement. Voilà. Et alors Bercy a indiqué là pour le coup assez précisément comment l'effort allait être réparti. Ce sera 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la Sécu, 5 milliards pour les collectivités. Dans les 20 milliards pour l'État, on va reprendre les 15 milliards qui viennent des lettres plafond de Gabriel Attal et à ça on rajoute 5 milliards supplémentaires. Sur ces 5 milliards, il y aura 1 milliard d'économies chez les opérateurs de l'État et nous dit-on une réduction du nombre de fonctionnaires. Et pour les 15 milliards d'euros d'économies de la Sécurité sociale, Bercy a annoncé une petite bombe puisque les retraites seront revalorisées l'année prochaine sur l'inflation, qui est estimé à Bercy à 1,8% l'an prochain, mais uniquement à partir du 1er juillet.
Ouais.
Autrement dit, de janvier à juin 2025, les pensions vont rester les mêmes que cette année. Donc il y a un gel sur la moitié de l'année 2025 sur les pensions de retraite. Et tout ça donc pour ne faire reculer le déficit que d'un point. Et la dette va même continuer à augmenter, puisqu'elle était l'an dernier un peu en dessous de 111%. Cette année, on va passer à 113 et l'an prochain à 115. Et le reflux de la dette n'interviendrait pas avant 2029, date à laquelle le nouveau gouvernement espère amener le déficit sous les 3%.
Bien, voilà le tableau. Le compte est bon, comme on dit, 60 milliards d'euros d'efforts. Voilà.
On verra si on y arrive.
Mais... Bertrand Renard n'aurait pas dit mieux. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous ce soir sur BFM Business. Il y aura un effort aussi qui sera demandé aux collectivités locales. Il y a un rapport qui est sorti ce matin et qui fait beaucoup jaser. C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit clairement. Nous avons trouvé sans problème de quoi leur faire faire des économies, des milliards d'euros d'économies. On vous racontera ça dans le journal de 19h. Dans l'actualité ce soir, il y a bien sûr la situation au Moyen-Orient. Les prix du pétrole sont stables ce soir, un petit peu en dessous de 76$ pour le baril de Brent. Il n'a pas bougé depuis hier soir dans l'attente de la riposte israélienne sur l'Iran. Question, les prix peuvent-ils s'emballer si Israël doit frapper des infrastructures iraniennes pétrolières? On en parlera bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h. Et puis on posera la question de savoir dans quelle mesure certains pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie peuvent éventuellement freiner les velléités des uns et des autres. Sinon, dans l'actualité ce soir, ça se précise, l'Europe devrait pouvoir appliquer bientôt des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois. D'après plusieurs sources, la France, l'Italie, la Grèce et la Pologne devraient voter pour vendredi prochain, ce qui suffira au vu de leur poids en Europe pour entériner la mesure. Dans l'actualité, toujours chez Céline, la maison de couture détenue par LVMH, directeur de la création artistique Eddy Slimane quitte ses fonctions. Il était en poste depuis quasiment 7 ans. Il sera remplacé par l'américain Michael Ryder. Le nom de Eddy Slimane circule entre autres pour prendre la direction artistique de Chanel. Et puis on vous fera écouter, a priori à 19h, le patron de la SNCF qui a mis un petit coup de pression ce matin à l'État. Il était auditionné à l'Assemblée nationale. Il va falloir remettre plus de 1 milliard d'euros sur la table pour l'entretien et la rénovation du réseau, car il le dit, il y a la concurrence désormais. Donc ça va devenir extrêmement compliqué. On écoutera Jean-Pierre Farandou tout à l'heure à 19h, 18h05, en attendant sur BFM Business. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce soir à la Bourse de Paris?
Une hausse in extremis, hein. Vraiment ça s'est dessiné en toute fin de séance parce qu'on a passé l'essentiel de la séance sur une légère baisse. Et puis on a donné un dernier coup de rein là en fin de séance, plus 0,05%, 7577 points pour le CAC 40. Les volumes d'échange n'étaient pas extraordinaires, hein. 3,5 milliards d'euros d'actions négociées. À noter que la tech a bien surperformé l'ensemble du marché avec plus 0,74% pour l'Euronext Tech Leaders. Mais enfin, on a fait mieux que l'ensemble des indices européens. Moins 0,25% pour le DAX à Francfort. On a un Eurostoxx 50 qui a fait un petit peu mieux, plus 0,18%. Enfin, globalement, on était bien orienté. Alors qu'il y a toujours une prime de risque géopolitique très très nette. Vous regardez les principales hausses du CAC 40. Total, plus de 24. On est à 60,64 €. On a Thales qui signe encore une belle performance dans le secteur de la défense. Plus 0,9%, 147,50 €. On a Dassault Aviation qui était aussi en hausse sur le SBF 120, l'indice large. La tech, donc, qui était bien orientée. ST Microelectronics signe hausse d'1% à 26,29 €. Alors, vous parliez du pétrole.
Oui.
C'est vrai qu'on a quand même eu une correction assez nette ces dernières heures. On était, c'est vrai, proche des 75-76 $ hier. Là, on a quand même bien reculé du côté des 73-90. Donc, un petit moment de soulagement pour les marchés. Mais enfin, le risque géopolitique, il est toujours là et bien là. Pour preuve, quand même, encore une forte baisse d'Air France KLM qui signe la plus forte baisse du SBF 120, moins 5,5%, 7,95 €. Prime de risque géopolitique, hausse des prix du pétrole, et puis en plus, peut-être la perspective d'un renchérissement du coût des billets avec une surtaxe gouvernementale. Donc tout ça fait du mal au titre, hein, qui signe 2 jours de baisse assez nette. Plus forte baisse du CAC 40, c'est Edenred qui recule de 3% à 34,13 €. Puis à noter Renault, hein, qui est attaqué depuis 2 jours, alors que Stellantis se redresse un petit peu. Renault est dans le viseur, hein, moins 2,9% à 36,66 €, alors que bon, on est dans un environnement où tous les constructeurs abaissent leurs prévisions et on attend que Renault fasse un petit peu la même chose. Pour l'instant, ce n'était pas fait. Mais le titre est clairement attaqué en bourse. Donc, le CAC 40 sur une toute petite hausse. Plus 0,05%, 7577 points. Et puis, l'euro qui paie le prix d'un dollar fort en ce moment. Valeur refuge, hein, le dollar, bien sûr. 1,1057 pour l'euro.
Merci beaucoup, Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, c'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 0,13%, 42 211 points. L'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,3%, 17 965 points. En quelques secondes, Antoine, il y a un mouvement majeur.
Oui, Nike.
Ouais.
Nike avec ses mauvais résultats, ouais. Annulation des perspectives, annulation de certaines journées investisseurs. Donc on sent qu'ils veulent tourner la page avec leur futur nouveau directeur général, mais enfin, il restait des cadavres dans les placards. Hein. Le titre perd 5,8% en ce moment à Wall Street.
Patron qui arrive dans quelques semaines, apparemment.
Ouais,
un nouveau patron chez Nike, on suivra ça. Merci beaucoup, Antoine. 18h08, à suivre la grande interview d'Edwige Chevrillon. Deux invités ce soir, l'économiste Jean-Marc Daniel et Renaud Dutreil, ancien ministre. Papa du pacte du même nom, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On cherche à faire des économies. Certains disent, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on raboterait pas, voire supprimer le pacte Dutreil? Bonsoir Renaud Dutreil.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez créé ce pacte Dutreil. C'était en 2003, donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et c'est vrai que ce pacte Dutreil qui permet à des entreprises familiales de se transmettre avec une fiscalité quand même très allégée, mais qui a des conditions. Mais il y en a certains qui commencent à dire « Oui, ça coûte cher, Sylvain Maillard, donc, qui était l'ancien président du groupe, les macronistes à l'Assemblée nationale, député, c'est lui qui porte, avec d'autres députés, ce projet de raboter un peu le pacte Dutreil. » D'abord, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait ?
Non, il ne s'agit pas d'être fier ou pas, il s'agit de savoir si il faut raboter les entreprises françaises et notamment les entreprises de taille intermédiaire qui représentent 25% des salariés français, 25% du chiffre d'affaires de la France et probablement les vrais champions français. Faut-il les supprimer ? Faut-il les raboter ? Faut-il les vendre à des étrangers ? C'est la question qui est derrière la question que vous venez de poser, puisque les PAC Dutreil sont le bouclier qui défendent depuis 20 ans nos plus belles entreprises françaises. Voilà.
Oui, il y en a 2000 là qui en ont profité jusqu'à présent.
Vous avez chaque année à peu près 1000 pactes qui sont signés. Oui. Beaucoup de pactes concernent des TPE, des PME, et puis un certain nombre concernent des ETI. Alors les ETI, c'est le sel de notre économie. C'est vraiment le cœur de l'économie. C'est 5300, 5400 entreprises dont à peu près 53% sont détenus à titre majoritaire par une famille. Ces familles les ont construites, ces entreprises, sur plusieurs générations.
Okay. Mais ça coûte combien ? Parce qu'on dit que ça... Enfin, le cadeau fiscal, je déteste ce mot.
C'est pas un cadeau fiscal.
Non, mais c'est pour ça que je dis
c'est un investissement qu'il faut regarder avec son retour sur investissement. Vous voyez cette notion de retour sur investissement ?
Oui, mais on est sur BFM Business, alors, on connaît, mais c'est quand même 2 à 3 milliards.
C'est la ça, mesure fiscale dont le retour sur investissement est le plus élevé de toutes les mesures fiscales qu'il y a en France.
Et vous vous appuyez sur quoi pour dire ça, Renaud Dutreil ?
Sur toutes les retombées qu'il y a à garder ces entreprises en France. Le jour où elles disparaissent, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus d'impôts sur les sociétés payés, elles sont parties. Vous n'avez plus de salariés, donc d'impôts sur le revenu payés, ils sont partis. Vous n'avez plus de TVA payés, ils sont partis. Vous n'avez plus d'impôts sur les dividendes.
Même, pardonnez-moi, il y avait quand même des entreprises avant 2003, avant la création du pacte Dutreil.
Je les ai vues, ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles vendaient leurs titres pour payer 45% d'impôts. À qui ? À des étrangers. Alors, le coût, revenons-y. Le seul qui a avancé un chiffre, c'est le CAE.
Le Conseil d'analyse économique.
Qui a avancé ce chiffre de 3 milliards.
Ouais.
Il y a quelques jours, le directeur de la législation fiscale, M. Martel, a dit que ça coûtait 750 millions d'euros. Donc, qui croire ? Hein ? Est-ce que ce sont les économistes qui sont à côté du Premier ministre et qui sont, en fait, ceux qui veulent démolir ce système ? Ou est-ce que c'est le fonctionnaire qui, lui, est aux impôts à Bercy et qui dit ça vaut 750 millions d'euros ? C'est 750 millions d'euros, c'est peanuts, c'est rien à côté de ce que toutes ces entreprises familiales apportent à notre pays. Alors, parce que, réfléchissez deux secondes, si ce n'est pas des familles qui détiennent ces entreprises, c'est qui ? Non mais c'est qui ? Alors, vous voulez que ça soit des fonds d'investissement ? Ok, horizon 5 à 10 ans. Vous voulez que ça soit les marchés financiers ? Horizon la journée au mieux. Vous voulez que ça soit l'État, le pire des gestionnaires qu'on puisse trouver sur Terre ? Non. Les familles, elles sont comme des arbres. Elles permettent à ces entreprises d'avoir des racines dans notre pays. Donc il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux riches, il s'agit d'enraciner ces entreprises dans notre pays pour qu'elles n'aillent pas ailleurs.
Là, certains, je parlais de Sylvain Maillard, mais d'autres députés, ce n'est pas de supprimer, c'est peut-être d'aménager, en disant il est un peu trop généreux parce que du coup il permet de mettre l'immobilier qui en fait n'est pas l'immobilier d'entreprise, qui est plutôt l'immobilier personnel, de mettre des avions, de mettre voir des châteaux, là, c'est le côté un peu fin d'un, c'est le fantasme.
Oui, vous savez, quand
plus
on
sérieusement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop généreux, un peu comme le crédit impôt recherche, quelque chose de formidable, qui s'il n'existait pas, je pense que la France serait encore plus en retard sur la recherche, mais c'est sûr qu'il y a des abus.
Quand on parle des impôts, il faut revenir aux fondamentaux. Hein ? On a en France 44,7% de prélèvements obligatoires. Mmh. En moyenne en Europe, on est à 39%.
Ouais.
Donc, toutes les bonnes idées de M. Maillard, ça devrait être comment passer de 44% à 39%. C'est pas la peine qu'il ait des idées pour créer des impôts, tout le monde en a. Là, il va pas être très original. Monsieur Maillard, s'il veut être fidèle à ce que le président de la République a fait depuis 7 ans, c'est créer un système de stabilité fiscale.
On va revenir dans un instant.
Très apprécié des entrepreneurs. Et en recréant d'instabilité, qu'est-ce qu'il va faire ?
Il va
troubler des stratégies d'entreprise qui se font sur des générations, sur des dizaines d'années.
Ça va déstabiliser.
Le pire en France, c'est l'instabilité fiscale.
Donc, M. Rayard,
qui se repose, qui part en vacances, qu'il arrête de toucher à ce qui marche et qu'il essaye de créer des emplois lui-même, et on verra
cela
si c'est efficace.
Est-ce qu'on peut pas un peu, peut-être, raboter tel ou tel point ?
Non mais,
pas du trait. Vous dites c'est tout ou rien.
On peut raboter le musée du Louvre, par exemple.
Ouais. Hein,
on peut raboter.
Il
n'y
a pas des aménagements à faire.
Raboter
les temps de détention des titres.
Alors, si on veut vraiment améliorer, évidemment, le dispositif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut encore baisser les taux, déjà. Hein ? C'est-à-dire qu'il faut aller vers une fiscalité quasiment proche de zéro. Parce que, la fiscalité, lorsqu'elle s'applique chaque année, régulièrement, sur des flux, avec des assiettes larges et des taux faibles, ça, c'est de la bonne fiscalité, autant un choc tous les 40 ans, tous les 30 ans, sur une entreprise où tout à coup, on va prélever une grosse partie de la ressource, alors que l'entreprise, elle est désarçonnée par le départ de son fondateur, qui part à la retraite ou qui est décédé, à un moment de fragilité pour l'entreprise. À ce moment-là, on vient la percuter avec de l'impôt, mais c'est totalement absurde. Donc, il faut baisser le taux.
Ouais.
Et à l'inverse, et d'ailleurs, c'était mon projet initial, ils font allonger la durée de détention des titres. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que les titres soient détenus, par exemple, 10 ans. Moi, ça ne me choquerait pas. Voilà. Voilà une seule disposition que je serais prêt à considérer comme positive. Mais toutes les autres, c'est vraiment pour casser la machine.
Renaud Dutreil, en une minute, qu'est-ce que vous diriez à Michel Barnier, là ? J'imagine que vous avez écouté son discours de politique générale. Est-ce que la hausse d'impôts, elle se justifie, étant donné les 60 milliards qu'il faut trouver ? Enfin, c'est 40 milliards d'économies, puis 20 milliards, a priori, de hausse d'impôts.
Alors, j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour Michel Barnier, qui est très courageux d'accepter cette mission et qui est aujourd'hui l'otage, en fait, d'un certain nombre de groupes. La question, c'est de savoir si ces groupes sont courageux. S'ils sont courageux, il faut qu'ils soient uniquement sur la baisse de la dépense publique. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts puisqu'on a déjà plus que tout le monde. C'est comme un organisme qui est malade, on ne va pas rajouter de la maladie. Il est déjà malade, la France est malade de prélèvements obligatoires qui sont excessifs. Donc il faut les réduire. Et en revanche, il faut baisser la dépense publique. Et là, on a des idées très simples, mais il faut avoir le courage de les appliquer.
Ouais. Et on fait quoi ? C'est quoi les deux idées ? Deux idées. Il vous reste 30 secondes.
On décale au 1er janvier 2026 l'indexation des retraites. Oui. Première chose. Deuxième idée, on fait la même chose pour la masse salariale publique. Gel du point d'indice et gel des GVT. Plus aucune augmentation de la masse salariale, pas un euro d'augmentation de la masse salariale.
Et on va rappeler que vous avez été ministre de la fonction publique, mais là vous mettez tout le monde dans la rue. Là.
Ouais. Mais qu'ils aillent dans la rue. S'ils veulent aller dans la rue est faite pour ça.
Ouais.
Qu'ils y aillent. Troisième idée, pareil pour les allocations chômage. Quatrième idée, pareil pour les minima sociaux. Donc, on fait quelque chose de sain. Au lieu de dire aux Français, vous inquiétez pas, il y a les riches. Mais ne vous inquiétez pas, les riches sont là. C'est formidable. On dit, non, il y a une situation très grave. Tout le monde s'y met. Tout le monde doit mettre la main à la poche. Tout le monde doit faire un effort. Les pauvres, les riches, les ni pauvres, les ni riches. Tout le monde fait un effort. Et ça s'appelle le gel des indexations pendant l'année 2025.
Voilà, ça, c'était les conseils à Michel Barnier, de Renaud Dutreil, puis on a bien compris sur le pacte Dutreil, on n'y touche pas, sauf peut-être sur la détention des titres. Merci beaucoup Renaud Dutreil d'avoir été avec nous. Et dans un instant, c'est notre économiste préféré sur BFM Business, bien sûr, il est président de la Société de l'économie politique. Il publie une nouvelle leçon d'histoire économique, à mon avis lui aussi a des conseils pour Michel Barnier. Jean-Marc Daniel est mon invité.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, parce que vous commencez très très tôt ici.
Certes, avec vous c'est toujours un plaisir.
Merci. Beaucoup de questions à vous poser. Vous publiez ce livre très intéressant qui est une nouvelle leçon d'histoire économique. Alors, c'est chez Odile Jacob. C'est une espèce de voyage en fait dans l'histoire économique, mais en fait vous raisonnez non pas chronologiquement mais par des thématiques, et on se rend compte, on parlait de dépenses publiques et à l'instant, on se rend compte que finalement c'est un peu toujours les mêmes thématiques qui reviennent. Ça veut dire que les économistes ils servent à rien.
Écoutez, les économistes, effectivement, donnent beaucoup de conseils, font des études et essaient d'orienter l'action des gouvernements. Mais cette question, je le rappelle dans le livre, la reine d'Angleterre, au moment de la récession, de la crise financière de 2008-2009, se rendant à la London School of Economics, s'est tournée vers les économistes qui étaient là, qui étaient un peu le gratin de la profession, et leur a dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez rien vu venir? Et surtout, comment se fait-il que vous n'ayez pas manifestement des remèdes immédiatement applicables? Et donc, il y a eu tout un exercice qui a consisté à répondre à la reine d'Angleterre, et ça a été plutôt une autocritique, un mea culpa, en disant, effectivement, on s'est trompé, on s'est laissé aller une forme de paresse intellectuelle. Simplement, ce que disaient les économistes de l'époque, c'est qu'il y a un véritable problème dans l'économie mondiale qui sont les déficits de balance des paiements courants. Le fait que les États-Unis, parce qu'ils bénéficient du dollar, se permettent de vivre au-dessus de leurs moyens. Et ils disent, ça c'est un grave problème, et on a beau le dire, les Américains n'en tiennent pas vraiment compte.
Oui, mais alors, vous écrivez, la science économique a acquis des assurances, voire des certitudes, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. J'ai envie de dire, je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça, ou puisé ça, parce que nous, on n'est pas tellement d'accord avec vous, hein.
Alors, la science économique a acquis un certain nombre, oui, de certitudes, qu'essaie de résumer un des économistes les plus influents du moment, qui est Nicolas Gregory Mankiw, qui a fait le manuel qui sert de référence à la plupart des enseignants. Et dans ce manuel, il dit il y a 10 éléments clés sur lesquels, normalement, tous les économistes sont d'accord et dont les décideurs devraient tenir compte. Alors, dans ces éléments, il y a des choses qui sont des choses un peu compliquées, pas forcément très opérationnelles, comme le fait que les ménages résonnent à la marge, c'est-à-dire qu'on réfléchit en fonction de la dernière unité de bien que l'on achète et pas en fonction du prix généralement pratiqué. Mais il y a aussi des choses assez simples qui consistent, par exemple, le principe 8, j'y tiens souvent, c'est on ne peut pas distribuer du revenu si on ne produit pas. Et donc, sans travail, il n'y a pas de capacité à générer du revenu.
Alors, vous parlez, forcément ça fera le lien avec ce qui se passe, vous parlez des dépenses publiques. Est-ce que moins de dépenses, est-ce que ça fait vraiment moins de croissance? Vous qui êtes un économiste, un historien de l'économie.
Alors c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, puisque dans les années 50, on disait la dépense publique génère de la croissance économique, et ça interdisait systématiquement l'idée de pouvoir faire des politiques dites d'austérité ou de rigueur, suivant le point de vue qu'on adoptait. Or, à partir des années 80, vu la situation à la fois de la dette publique dans un certain nombre de pays, et le fait que l'inflation ayant disparu, ces pays voyaient bien que cette dette ne pouvait pas disparaître aussi rapidement qu'elle l'avait fait dans les années 50-60, parce qu'il y avait beaucoup d'inflation. Et donc, on a mené des politiques d'austérité à l'époque, dans les années 80. Il y a un exemple célèbre qui est celui de la Suède, qui en 1992 a complètement disparu, par exemple, du paysage économique, qui a fait une politique d'austérité assez violente et qui a retrouvé après le chemin de la croissance. Vous avez l'exemple du Canada, vous avez plusieurs exemples. Alors, il faut bien voir qu'il faut raisonner à moyen terme. À court terme, vous avez une contraction de l'activité économique.
Ah ben donc, on l'a. Donc là, si on revient au cas de la France, si on fait des économies de dépenses... Il y aura une contraction, comme le dit l'OFCE.
Il y aura forcément une contraction. Ouais. Et alors, ça dépend de la violence. Là, je reconnais, par exemple, que si vous prenez le cas de la Grèce, elle a retrouvé son PIB qui était de 240 milliards d'euros. En 2007, elle l'a retrouvé en 2019, juste avant la crise du Covid.
Oui, même un peu plus tard, non ?
Oui, même un peu plus tard, suivant comment on comptabilise, notamment le poids...
Et alors, la France ? Alors, je pense... C'est quoi vos conseils à Michel Barnier? Vous lui dites, alors, surtout ne coupez pas dans les dépenses, parce que sinon, la croissance qui est déjà un peu tremblotante de 1% à 1,1%, qu'est-ce que vous lui dites?
Non, je lui dis que, effectivement, il ne faut pas être violent dans l'évolution des dépenses, et pour reprendre un peu ce que disait l'intervenant précédent, Renaud Dutreil, il y a une idée dans le rapport Pebro qui avait été rédigé en 2005, justement, pour essayer, là aussi, de contenir les dépenses publiques et d'éviter... une évolution, un embrasement de la dette, une explosion de la dette. Il disait, il faut geler pendant un certain temps les dépenses publiques en euros courants.
Donc ce qu'il a préconisé l'ancien ministre de la fonction publique.
Si, c'est ce qu'il préconisait.
Il disait, à la limite, il faut geler l'indice GVT, l'indice le salaire des fonctionnaires.
Et geler les retraites, geler les allocations familiales. Et puis la deuxième mesure que proposait le rapport Pebro, c'est de maintenir...
Moi, vous.
Oui, mais moi je suis d'accord avec ça.
Vous,
et la deuxième mesure qui...
Mouillez-vous
proposer. Oui, je suis d'accord avec cette mesure, l'année blanche sur les dépenses publiques. Et la deuxième mesure, c'est des réformes fiscales qui consistent à modifier l'assiette fiscale, avoir un taux de prélèvement qui soit globalement le même, mais baisser les impôts des entreprises et accepter l'idée de monter les impôts des ménages. Mais sur les impôts des ménages, je pense qu'il faut incorporer le fait, et c'est sur quoi j'insiste, c'est que désormais, il y a quand même une préoccupation écologique et donc il faut faire monter en puissance une taxe carbone.
Donc, en résumé, par rapport à ce que vous avez entendu, discours de politique générale, préparation du budget, ça y est, depuis aujourd'hui, on connaît un peu tous les grands équilibres. Vous, vous dites, si vous distribuez des bons points, c'est quoi ? En termes de fiscalité, vous trouvez que...
Il n'a pas dit grand-chose, donc je pense qu'il aurait dit, il aurait assumé, il a été quand même ministre de l'Environnement, notre Premier ministre, il aurait assumé l'idée qu'il y avait eu plus que des maladresses, c'est le moins qu'on puisse dire, en 2018, lorsqu'on a voulu faire émerger la taxe carbone. Ça ne veut pas dire qu'ad vitam aeternam, on s'interdit d'utiliser cet outil pour réduire l'empreinte carbone sur l'économie.
Mais là, ça ne réduit pas le déficit, ça.
Ah ben, si vous augmentez la taxe carbone, ça vous apporte des ressources. Et l'idée, c'est quand même de réduire le déficit plutôt par la dépense. Et donc, l'idée, au travers de la taxe carbone, c'est de modifier la fiscalité de façon à pouvoir baisser la fiscalité des entreprises qui, elles, sont à l'origine de la création de richesses.
Donc, vous dites qu'il faut mieux... À la limite, alors que là, il est parti plutôt sur les entreprises, les grandes entreprises, les super riches, vous dites non, il faut mieux le faire sur l'impôt sur le revenu ?
Sur la taxe carbone, pas forcément sur l'impôt sur le revenu, mais sur les impôts indirects. Vous savez, le président Mitterrand, je dis ça dans le livre, à la fin des fins, au moment de la rigueur, il consulte tout un tas d'économistes, et puis il dit, d'après verbatim de Jacques Attali, il dit, bon, finalement, le plus simple, c'est essence, tabac, alcool. On augmente le prix de l'essence, on augmente le prix du tabac, on augmente le prix de l'alcool, et donc comme ça, on a des petites recettes de poche. C'est pas considérable, mais ça permet quand même de souffler un certain temps. Et donc je crois que il y a un problème essence, il y a un problème carbone d'une façon générale. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est un problème de ces impôts de production qu'il faudrait baisser, c'est-à-dire d'un problème de croissance économique.
En conclusion, est-ce qu'il y a un vrai problème de dépenses publiques ? Parce que là, évidemment, ici, on dit tout ce qu'il faut raboter, que le déficit est abyssal, etc., etc. Mais d'autres disent, oui, mais enfin bon, c'est pas forcément un problème.
Oui, oui. Et quand on va voir les administrations, on leur dit, est-ce que vous pouvez faire des efforts ? La réponse naturelle, on est à l'os, on peut plus faire d'efforts. C'est vrai parfois, ouais. Mais la Cour des comptes vient de sortir un rapport sur la gestion des collectivités territoriales disant qu'on pourrait supprimer très rapidement 100 000 emplois dans les collectivités territoriales avec une économie à la clé d'un peu plus de 4 milliards, ce qui ramènerait les effectifs des collectivités territoriales à la situation de 2010. Et donc, dit la Cour des comptes, est-ce qu'en 2010, les Français avaient l'impression d'être moins bien servis par leur
Mais ça augmenterait le taux de chômage ? Donc ça coûterait cher.
Ah mais ça augmenterait le taux de chômage si les gens dont on supprime l'emploi ne se retournent pas vers d'autres types d'activités. Je pense que un des problèmes, c'est cette idée que augmenter les emplois publics, c'est diminuer le chômage. C'était une idée de 81. Vous savez, il y avait 200 000 emplois dans le programme de Mitterrand en 81 et ça n'a pas marché.
Tout revient, c'est des cycles. Tout revient, ça part dans un sens, ça repart dans l'autre. C'est un mouvement de balancier presque de cycles.
Il y a des cycles économiques et il y a des cycle d'idées aussi, mais il reste une chose qui est permanente indépendamment du cycle, c'est que c'est par le travail qu'on crée de la production et par la production qu'on crée du revenu.
Travailler, vous avez compris le message de Jean-Marc Daniel. Nouvelle leçon d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique et travail. C'est publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup Jean-Marc.
Merci de m'avoir accueilli.
Daniel. On vous retrouve bien sûr demain matin, tout de suite Guillaume Paul.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est donc un effort sans précédent que le gouvernement inscrira dans son projet de loi de finances pour 2025. 60 milliards d'euros d'efforts, 2/3 de baisse de dépenses publiques, 1/3 de hausse d'impôts, c'est ce qu'il faudra pour ramener les déficits à 5% du PIB à la fin de l'année prochaine. Projet qui sera présenté en Conseil des ministres jeudi dans 8 jours. Les prix du pétrole stables, voire en légère détente ce soir. Le baril de Brent est un petit peu en dessous des 74$. Il n'a pas bougé quasiment depuis hier soir dans l'attente désormais de la riposte israélienne sur l'Iran. Ça se précise, l'Europe devrait pouvoir appliquer bientôt des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois. D'après plusieurs sources, la France, l'Italie, la Grèce et la Pologne devraient voter pour vendredi prochain, ce qui suffira au vu de leur poids en cumulé en Europe pour entériner la mesure. Et puis côté entreprise, chez Céline, maison de couture détenue par LVMH, Le directeur de la création artistique Eddie Sliman quitte ses fonctions. Il était en poste depuis quasiment 7 ans. Il sera remplacé par l'américain Michael Ryder, qui connaît déjà la maison. Le nom de Eddie Sliman circule entre autres pour prendre la direction artistique de la maison Chanel. 18h32, les experts BFM, première partie arrive jusqu'à 19h. Dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez oui, les experts BFM jusqu'à 19h sur BFM Business. Première partie de décryptage de l'actualité économique comme tous les soirs, bien sûr. Edwige Chevrillon reste avec nous. Rebonsoir.
Rebonsoir Guillaume.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Asportas est avec nous également. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Et on va commencer avec vous Thomas. Alors sur ce chiffre effrayant qui est tombé ce matin à la mi-journée, je crois, vers 12h, 13h. Chiffre effrayant parce que c'est la première fois que on est parti pour faire un effort de cette ampleur. Il va falloir, tenez-vous bien, pour maîtriser nos comptes publics l'an prochain, faire un effort de 60 milliards d'euros. On n'a jamais fait ça, Thomas, vous me le confirmez.
Oui, alors pour maîtriser nos comptes publics, c'est vite dit. Hein. C'est juste pour amener le déficit de 6% à 5%. C'est un effort sans précédent, mais ce n'est pas pour revenir sous les 3% de déficit, pas du tout. Mais effectivement, la montagne, enfin, l'effort à réussir l'année prochaine pour simplement faire ce petit ajustement de 1% de déficit est colossal. On parle effectivement d'un effort de 60 milliards d'euros. C'est ce que nous ont dit à la mi-journée les services de Bercy et de Matignon. En fait, aujourd'hui, le gouvernement a officiellement envoyé le cadrage macroéconomique du budget au Conseil des finances publiques.
Ouais.
Et dans la foulée, ils nous ont révélé donc les grandes lignes macroéconomiques du budget. Et pour arriver à atterrir à un déficit de 5% l'an prochain, il faut un effort de 60 milliards. Comme l'a dit Michel Barnier, ça va être 2/3 économie, 1/3 impôt. Sauf qu'hier, on avait en tête un chiffre de 40 milliards, qui était déjà colossal.
Ouais,
en fait, c'est pas 40,
20,
c'est 60.
30, 40,
voilà,
60.
Tous les jours. Donc, ça veut dire 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts.
Donc, 2/3, 1/3, voilà, 60
milliards. Et pourquoi
milliards
il faut expliquer pourquoi.
Alors, pourquoi voilà, oui, voilà.
Pourquoi, oui.
Parce que donc, aujourd'hui, l'objectif que se fixe Bercy de déficit pour cette année, c'est 6,1.
Oui.
Voilà. Je vous rappelle que normalement, on devait être à 4 hein, cette année. Donc, on va être à 6 au mieux. L'an prochain, on doit passer à 5. Donc, on se dit un point de PIB, c'est pas 60 milliards. Un point de PIB, c'est 30 milliards. Mais en fait, c'est que si on ne fait rien, ce que nous explique Bercy, c'est que l'an prochain, on serait pas à 6, on serait à 7. Et donc, il faut éviter d'arriver à 7 et au contraire arriver à 5. Donc là, c'est plus un point de PIB, mais 2 points de PIB. Et 2 points de PIB, effectivement, c'est 60 milliards d'euros.
Ça nous fait 60. Avant de rentrer dans le détail, parce qu'on a déjà un ordre de grandeur des économies déjà qu'on va devoir faire l'an prochain. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à faire là l'an prochain en catastrophe ce qu'on a finalement jamais fait dans l'histoire?
Enfin, vous avez la réponse dans votre question. On l'a jamais fait dans l'histoire. On l'a jamais fait récemment, alors qu'on nous l'a promis quand même depuis très très longtemps. Donc, savoir si on va réussir. C'est difficile parce que là sur les hausses d'impôts 20 milliards, on va voir comment ils les ventilent, mais ça commence déjà un peu à coincer du côté des entreprises parce que Patrick Martin, certes le président du MEDEF, avait dit pourquoi pas si c'est une fois, si c'est pour aider la contribution des entreprises, et puis on voit bien que maintenant il commence à rétro-pédaler, et du côté des ministres des Affaires économiques, ça commence sérieusement à tordre le nez. Et puis du côté des dépenses, pour l'instant on n'a pas grand chose, on a juste une annonce effectivement sur le gel de l'indexation des retraites au moins jusqu'au 1er juillet.
Ouais,
alors c'est peut-être au 1er janvier, au 1er juillet 2025, ça fait 4 milliards. Renaud Dutreil, l'ancien ministre de la Fonction publique, disait à l'instant, il faut le faire au 1er janvier 2026, comme ça, hop, on fait tout de suite 8 milliards.
Il a été.
Il faut
geler. Il faut faire de la politique, ce monsieur. Hein,
l'augmentation d'IGVT, vous savez, c'est l'indice de progression des salaires dans la fonction publique.
Ouais.
Puis voilà.
On a le détail des 40 milliards ou quasiment d'économies sur la dépense, Thomas.
Oui, ça, ils nous ont dit. Autant sur les hausses d'impôts, ils nous ont renvoyé à la présentation du budget, ce sera le 10 octobre. Donc, on aura eu cette info. 10 octobre, présentation du budget en Conseil des ministres, puis à l'Assemblée. Donc, pour les hausses d'impôts, ce sera là-dedans. Par contre, sur les économies, ils nous ont dit qu'en gros, les 40 milliards, il y aurait la moitié pour l'État, 20 milliards, 15 milliards sur la Sécu, et donc toutes les dépenses de sécurité sociale, donc maladie, vieillesse, retraite, accident du travail, et enfin les 5 branches, et puis 5 milliards sur les collectivités. Sur les collectivités, il y avait vraiment rien, parce qu'ils disent. Ce que disait hier Michel Barnier, pas de contrainte, mais un contrat, mais on ne sait pas quel contrat. Enfin bref, on voit bien que cette année, les collectivités n'ont pas du tout voulu jouer le jeu, donc est-ce que le feront davantage l'année prochaine, on verra. Sur la Sécu, donc il y a eu cette annonce, effectivement, sur les retraites.
Oui.
On nous a dit aussi que la progression des dépenses maladie, la fameuse ONDAM. Chaque année, c'est le taux de progression des dépenses d'assurance maladie. Il serait 2,8% l'année prochaine. C'est quand même un taux assez faible comparé à ce qui est fait d'habitude. Hein. Et pour ce qui est de l'État, j'en finis avec ça, sur les 20 milliards, ce qui nous fait dire qu'on pourrait y arriver, c'est que sur les 20 milliards, en fait, il y en a déjà 15 qui sont dans les lettres plafond de Gabriel Attal. Donc il faut les faire maintenant.
Oui, mais il y a déjà, mais c'est pas parce qu'ils sont dans les lettres plafond qu'ils sont forcément réalisés.
Tout à fait. Maintenant, il faut exécuter. Mais il y a quand même déjà ce cadre-là. C'est l'héritage, en gros, de Gabriel Attal. Quoi. Oui. Vous vous souvenez où il disait, moi, je vais geler les dépenses de l'État en valeur, 492 milliards. Mmh. En fait, ça va être 487, 5 milliards de moins. Et à ça, on rajoute 5 milliards d'euros d'économie. Il y aura 1 milliard dans les opérateurs de l'État. C'était les fusions dont parlait hier dans Raffol, Emmanuel Le Chypre, de Business France et d'Aqui France. Tout ça, ça va nous faire 1 milliard d'économie. Et aussi, au sujet autrement plus sensible, des réductions d'effectifs dans la fonction publique.
Mmh. Oui.
On nous dit qu'il y aura moins de fonctionnaires l'an prochain que cette année.
Bon, et ben voilà, donc la promesse à 60 milliards d'euros pour l'an prochain. Emmanuel, est-ce que la France va être capable de faire l'an prochain ce qu'elle n'a jamais été? Il est venu avec un petit schéma qui me fait craindre le pire.
Il est venu avec ses spaghettis.
Ah là là.
Non, je suis venu avec un petit graphique que je vous avais déjà montré. Vous savez, c'était 40 ans de promesses trahies. Alors, je ne sais pas si on peut... C'est assez compliqué. La prochaine fois, je vous le mettrai. Je vous le reverrai très vite.
Mais là, vous nous l'expliquez oralement.
Ce graphique, grosso modo, c'est la trajectoire réelle. La grosse courbe noire, c'est la trajectoire réelle de nos finances publiques. Et si vous voyez tout un tas de petits spaghettis qui partent vers le haut, c'est chaque année la promesse qu'on fait à Bruxelles sur notre trajectoire budgétaire pour les 3-4 années qui viennent.
Et il y a un delta, comme on dit.
Et donc, vous voyez bien qu'à chaque fois, nous promettons toujours de revenir à 3% du PIB, et nous n'y arrivons jamais. Et je vous ai mis un petit point noir, je ne sais pas si on peut le voir. Vous voyez, c'est là où on en est aujourd'hui en 2024, pour vous montrer qu'une fois de plus, on est encore très loin de nos objectifs, puisque dans les plans initiaux, le déficit 2024, alors dans les plusieurs plans qu'on a transmis à Bruxelles, à 2024, on était à peu près à moins 4 et on sera au-delà de moins 6. Donc, si on regarde dans l'histoire, en général, on n'a jamais réussi à gagner 2 points de PIB de déficit public en moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a pu regagner 2 points de déficit, c'était minimum en 5 ans, et c'était entre 1993 et 1998 de mémoire. Sinon, nous n'avons jamais réussi. Et puis n'oubliez pas que derrière les déficits qu'on voit, qui sont les déficits globaux, il y a un autre déficit qui est autrement plus préoccupant, enfin, et que regardent véritablement pour le coup les marchés financiers, etc. C'est ce qu'on appelle notre déficit structurel, celui qui ne dépend pas des fluctuations de la conjoncture. Or, il faut rappeler que depuis 20 ans, jamais notre déficit structurel n'a été inférieur à 3% du PIB, et que là, malgré tous les efforts qu'on va faire, il y en a très peu qui vont contribuer à résoudre ces déficits structurels. Quand il y a 15 milliards de gel de crédit, c'est pas de la réduction du déficit structurel.
Donc, alors, c'est le plus important.
Les 100 000 fonctionnaires, oui, ça peut rentrer dans
ce cadre. Ah, j'ai pas dit qu'il y en aurait 100 000.
Dans ce cadre-là, projet.
Ah non, si on est arrivé à 100 000, là, moi,
200 000.
On offre le champagne à tout le monde.
Non, on verra. C'est combien le nombre de fonctionnaires? Non, 100 000, c'est, pardon. 100 000, pardonnez-moi, c'est moi qui. C'est la recommandation.
Ah, de la Cour des comptes.
Vous
avez vu ce rapport absolument enseignant aujourd'hui sur les comptes.
Oui, c'est énorme.
Qui dit qu'il faudrait supprimer 100 000 postes de fonctionnaires pour revenir au niveau d'il y a 15 ans, de 2010.
Ils sont ceux qui ont été créés dans les collectivités locales, sans que soient diminués les effectifs. Donc, franchement, avec les méthodes qu'on nous présente aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait tenir cet objectif. Et le pire, c'est que si, avec le plus grand des courages, on y arrivait, je veux dire, on se retrouverait dans un an face au même problème sur la trajectoire à terme de nos finances publiques. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de réponse structurelle sur, effectivement, nos dépenses et nos recettes.
Donc c'est bien le périmètre de l'État qu'il va falloir interroger.
Oui, parce que là, c'est que des dépenses conjoncturelles.
Conjoncturelles, absolument.
Donc c'est là où il n'y a pas de réforme annoncée.
Pour l'instant, non. Rappelons que...
Sauf que le gouvernement, là-dessus, va devoir sortir du bois. Parce que, pour revenir sous 3% de déficit, non pas en 2027, mais en 2029, Ça, c'est en échange d'un deal avec Bruxelles, en échange de réformes. Et ça, le gouvernement a jusqu'au 31 octobre pour présenter ce qu'on appelle le PIR, le programme d'investissement et de réforme. Non, non, oui. Mais ça, c'est sur la trajectoire
Thomas,
budgétaire.
Thomas,
non, non, mais je
ne
vous dis pas qu'on va y arriver.
Mais à chaque
dis,
fois,
je...
on a promis mais des réformes. Vous...
Non, non, mais... La réforme des retraites. La réforme des retraites oui, a été promise par Bruxelles.
Encore une fois, ce qui est... Il y a l'assurance chômage. Enfin, le gouvernement va devoir sortir du bois sur les réformes structurelles d'ici au 31 octobre.
Ce qui est inquiétant, c'est que on ne voit pas en plus dans la méthode des différents majeure avec ce qui a toujours échoué au cours des 40
Attendez,
dernières années.
Oui, bon. Donc, ça bon. Vient, n'oubliez voilà. pas que le discours de politique générale était mardi, oui. et là, Jérôme Fournel a présenté tout à l'heure le budget, donc il faut lui laisser au moins peut-être
voilà. 48 heures. Ce que dit Edwige, ça fait 40 ans qu'on l'entend, mais... il vient en présenter non, le budget, non, il faut leur laisser un peu de temps, on a envie
non,
de
non, 48 heures, moi
ça
je disais juste...
40 ans qu'on a envie
je disais
de
juste
ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas, et encore une fois, c'est exactement comme d'habitude. Tout se passe comme d'habitude.
N'oubliez pas qu'il s'agit peut-être là avant tout de rassurer les marchés qui sont prêts à s'enflammer à moindre
je suis pas sûr que ce soit
ça.
Non
ouais.
ça ne prévient pas
ce genre de choses
mais il ne faut pas crier au loup quand il y a
ne crions pas au loup
franchement pour le coup il n'y a pas d'urgence c'est pour ça que il me semble que la bonne tactique c'était peut-être pas de s'acharner sur 2025, mais pourquoi pas de prendre son temps pour proposer des vraies réformes structurelles.
Voilà en tout cas pour ce PLF 2025 qui sera présenté donc jeudi dans 10 jours en Conseil des ministres, ça sera le 10 octobre. Merci beaucoup Thomas Asportas qui est sur le front, qui est à l'Assemblée hier et qui est sur le front depuis 24 heures. On vous laisse repartir Thomas, merci beaucoup. Et puis on va parler du Moyen-Orient, on va accueillir à votre place Benaouda Bedaïm qui va nous rejoindre en direct sur BFM Business. Bonsoir Benaouda, bienvenue. Les prix du pétrole, on le disait, en légère détente ce soir. On est un petit peu en dessous des 74 $ sur le Brent. Parmi les nombreuses questions qu'on se pose, Benaouda, alors que le monde attend bien sûr la riposte de l'Iran, il y a cette question de savoir si Israël pourrait frapper les infrastructures nucléaires de l'Iran, Benaouda.
C'est une hypothèse qui est vraiment sur la table en Israël. Personne n'en parle officiellement, mais c'est vraiment, selon plusieurs sources, l'idée qu'il y a à Jérusalem et à Tel Aviv. Tout à l'heure, le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit que Israël allait réagir militairement, que Israël pouvait localiser des cibles importantes et les frapper avec précision et puissance. Alors, on a remarqué aussi que Naftali Bennett, qui est un ancien Premier ministre et qui talonne actuellement dans les sondages le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dit que Israël peut maintenant changer le visage du Moyen-Orient en procédant à une frappe décisive pour détruire les installations nucléaires civiles de l'Iran. Naftali Bennett qui dit qu'Israël, son pays, a la justification et les outils nécessaires. Il y a de très nombreux sites. C'est très dispersé, le programme nucléaire iranien. Peut-être qu'ils viseront, c'est vraiment de la spéculation pour l'instant, ceux qui se trouvent dans la province d'Ispahan, au centre du pays. Il y a aussi des 3 mines d'uranium plus à l'est du pays. On a vu, par exemple, que jeudi dernier, c'était une agence de presse officielle iranienne qui racontait comment un centre de formation scientifique nucléaire a été inauguré à Ispahan. Alors après, il y a ce qui relève de la théorie, de ce qu'on raconte, notamment dans les médias américains. Et puis il y a la pratique. Les Israéliens sont peut-être très loin du compte. Parce que c'est un correspondant militaire d'un quotidien de droite israélien qui l'explique très bien. Il dit que pour atteindre, pour percer les cibles extrêmement fortifiées en profondeur, c'est-à-dire dans les sites enfouis, il faudrait pour cela que les Américains leur donnent aux Israéliens des bombes de 30 000 livres, c'est-à-dire d'immenses bombes. Sauf que même sous l'administration de Donald Trump, Washington a toujours refusé de livrer ses bombes.
Et alors, quelle serait l'efficacité de ces frappes contre les infrastructures nucléaires, précisément?
Il faut voir que pour l'instant, le système de défense antiaérienne de l'Iran n'est pas au niveau auquel espéraient les Iraniens pour pouvoir se défendre d'une attaque conjointe américano-israélienne. Mais il se dit que même si les Israéliens parvenaient à bombarder telle ou telle installation nucléaire iranienne, encore une fois, ce programme est tellement dispersé, ouais, tellement au point, tellement avancé, que ça sera en fait que reporter l'échéance de l'acquisition de la bombe nucléaire par les Iraniens. Il y a une note à cet égard très intéressante de la directrice de la non-prolifération nucléaire de l'Association américaine du contrôle des armements. Elle date de mai. Elle dit que vous pouvez bombarder des sites, mais vous ne pouvez pas bombarder du savoir-faire scientifique, des capacités technologiques, vous ne pouvez pas bombarder le personnel. Et en fait, ça fait depuis 2010 que les Israéliens procèdent à des assassinats de scientifiques iraniens, spécialistes du nucléaire, de physique, etc. Ça n'a absolument pas empêché que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, fasse le constat qu'en février dernier, les Iraniens étaient 27 fois au-dessus dans leur stock d'uranium enrichi, au-dessus des limites fixées par l'accord nucléaire de 2015. Duquel est sorti, sont sortis les États-Unis.
Et puis il y a toujours la menace, bien sûr, de frappe sur l'économie pétrolière, là aussi, qui pose beaucoup de questions.
Oui, effectivement. Alors, de nombreux, là aussi, responsables israéliens considèrent les installations pétrolières comme une cible tout à fait probable. Alors, nul n'est en mesure de confirmer la réalité de ces intentions-là. Il faut encore une fois rappeler que l'Iran, c'est le troisième producteur de l'OPEP. Oui. C'est plus de 4 millions de barils de jour, c'est-à-dire 800 000 de plus que les Émirats Arabes Unis. Qu'il y a des sites de stockage sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% des approvisionnements pétroliers au monde qui passent par là. Il y a aussi la dernière phase du gisement gazier South Pars iranien qui a été inauguré l'an dernier, qui pourrait, là aussi, ça relève de la spéculation, être atteint. C'est le plus grand gisement gazier au monde. Et on voit de nombreux élus américains, notamment dans le Parti républicain, comme le sénateur Lindsey Graham, plaider le bombardement des raffineries iraniennes. Il y en a 9. Et il faut voir que les raffineries iraniennes... il y a un programme de modernisation et elles pourraient être les plus importantes du Moyen-Orient. Oui. Donc, c'est l'idée que poussent les Américains.
Justement, qu'en diraient les Américains, fondamentalement?
Alors, les Américains ne veulent surtout pas, en tout cas, le camp démocrate ne veulent surtout pas d'une flambée des cours avant l'élection présidentielle. Mais on a vu tout à l'heure l'ambassadrice des États-Unis, donc démocrate, auprès des Nations Unies, prendre fait et cause pour Israël, réclamer des sanctions supplémentaires contre le corps des gardiens de la Révolution, l'épine dorsale du système iranien, une coordination étroite avec Israël. Et à Washington, on se dit beaucoup qu'il y aura beaucoup de membres de l'OPEP+ qui seront tout à fait ravis de compenser la production iranienne de 3,5 millions de barils jour. Alors, est-ce qu'il va y avoir coordination militaire opérationnelle avec les Américains pour bombarder des sites de stockage et les raffineries en Iran? C'est une question qui se pose. Mais ça ne concerne pas que les États-Unis. On voit une inquiétude dans l'ensemble de la région et bien au-delà, parmi les grands émergents. Tout à l'heure, il y avait un article très intéressant dans un quotidien indien qui disait... si vous procédez à de tels bombardements, vous allez perturber l'ensemble des chaînes d'approvisionnement dans la région, vous allez bloquer les chaînes d'approvisionnement autour de la péninsule arabique et vous allez mettre en cause notre prospérité, celle de l'Inde, qui est, rappelons-le, un allié fondamental des États-Unis dans le cadre de sa stratégie indo-pacifique. Et vous risquez non seulement de créer une guerre régionale, mais en plus de ça, porter atteinte à notre prospérité.
Merci beaucoup Ben Aouda. Il y a l'idée que pour l'instant les prix du pétrole ne s'emballent pas, Emmanuel. On ne veut pas croire sur les marchés une escalade.
Alors il y a aussi la toile de fond qui est quand même un rapport entre offre et demande de pétrole qui aujourd'hui va plutôt vers une surproduction que vers une pénurie. Oui. Quand vous regardez aujourd'hui les prévisions de production et les prévisions de demande, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prévisions de production sont plutôt revues à la hausse parce que les schistes américains tournent bien, parce que les pays non OPEP effectivement produisent beaucoup, parce que l'Arabie Saoudite est prête à produire plus, et que par contre on a une révision plutôt à la baisse de la consommation, notamment avec la Chine qui n'a toujours pas retrouvé son rythme de croisière. Et il y a même des prévisions, je pense à celle de Citi par exemple, qui dit mais si l'OPEP plus ne réduit pas davantage sa production au courant 2025, les prix pourraient tomber jusqu'à $60 le baril. Donc même si on rajoute quand même quelques dollars liés à ce facteur iranien, à l'incertitude, aux perturbations, etc., on n'est pas à l'aube d'un grand choc pétrolier, manifestement.
Voilà pour cette situation. En 30 secondes, Ben Aoudé, il y a toujours l'idée qui circule sur lequel de grands pays qui pèsent sur le plan diplomatique, les États-Unis, la Chine, la Russie, sauront, si besoin, retenir la main et freiner les velléités des uns et des autres. C'est à ça que se raccrochent les marchés aujourd'hui, finalement.
Oui, que les États-Unis freineront la main des Israéliens et que les Russes et les Chinois freineront la main des Iraniens. De part et d'autre, il y a l'impression que c'est une question existentielle pour l'État iranien et pour l'État israélien. Et on ne voit pas, d'un côté comme de l'autre, l'idée de renoncer à ce qu'ils estiment être leurs intérêts vitaux pour complaire à tel ou tel allié extérieur, tel ou tel protecteur extérieur. Donc de ce point de vue-là, ceux qui pensent que les Américains seront en mesure de retenir la main des Israéliens ont peut-être certaines illusions devant eux.
Voilà donc pour la situation ce soir au Moyen-Orient, 18h54, vue sur le web, comme tous les soirs, pour conclure cette première heure ensemble. Vue sur bfmbusiness.com et c'est Frédéric Bianchi qui est avec nous. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Guillaume.
Une drôle d'histoire encore ce soir, figurez-vous qu'en Allemagne, mesdames, messieurs, chez Tesla, des salariés en arrêt maladie ont reçu la visite à domicile de cadres de leur propre entreprise. Ça fait beaucoup causer apparemment cette affaire.
Oui, ça fait beaucoup causer. Oui, c'est le Handelsblatt, le quotidien allemand économique, qui a eu accès à un enregistrement dans lequel on peut entendre le chef du personnel de cette usine, cette Gigafactory. On se souvient, on espérait en France qu'elle arrive en France. Non, elle est ouverte à Grünheid, à quelques encablures de Berlin. Eh bien, ça se passe pas si bien que ça. Elle a ouvert en 2022. Et malheureusement, il y aurait un taux d'absentéisme record, à tel point que début septembre, le directeur de l'usine et le directeur du personnel, eh bien, ont mandaté les équipes pour aller chez les salariés en arrêt maladie, taper à la porte et pour savoir un petit peu ce qui se passait. Alors évidemment, ils ont été très mal reçus. La plupart du temps, ils se sont fait crier dessus. Certains ont même menacé d'appeler la police, le 110 en Allemagne. Partez où j'appelle le 110. C'est ce qu'ont menacé, en tout cas, certains salariés. Alors pourquoi ce désir d'aller chez le salarié, voir qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que c'est dans cette usine, il y a un taux d'absentéisme record. Selon toujours le Handelsblatt, on atteint des taux de 17% de salariés en août. On parle quand même d'une très grande usine, 12 000 salariés, une gigafactory à la Tesla. 17%, alors que dans l'industrie automobile allemande, on tourne aux alentours de 5%, d'ailleurs un peu moins que la moyenne nationale qui est à 6%. Donc, les responsables de l'usine se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les salariés sont en arrêt maladie? Ils auront ici notamment le cas de 200, le nombre de 200 salariés qui ne seraient plus venus dans l'usine depuis un an. Alors, ils disent, est-ce que ce sont les conditions de travail qui seraient mauvaises? La réponse est non, en tout cas selon eux, puisqu'ils citent les employés intérimaires qui, eux, seraient beaucoup moins absents que les salariés en contrat à durée indéterminée. Alors, pour le directeur du personnel, c'est ce qu'il dit à Handelsblatt, il profite du système allemand. On se croirait en France dans ce type de débat.
De la bouche, là.
Il profite du système en se mettant en arrêt maladie plus fréquemment, selon eux, le vendredi et lors des soirées. Alors évidemment, c'est une pratique qui est dénoncée fortement par les syndicats, le très puissant syndicat IG Metall, qui est le grand syndicat de l'industrie automobile allemande, qui dénonce d'une part cette pratique, et puis surtout qui, depuis l'ouverture, estime que les cadences dans cette usine Tesla sont infernales, que les horaires sont en rallonge, et surtout qu'il y a un management de la peur. Voilà, on se croirait dans un débat franco-français, ça se passe un petit peu pareil finalement en Allemagne.
Voilà, comme quoi on se rassure quand on regarde là nos frontières. Non, c'est qu'on voit pas ça en France, vous voyez. Pas les cadres débarqués dans les entreprises.
Non, c'est-à-dire que l'écart entre l'absentéisme moyen et le taux d'absentéisme de cette usine pose quand même question. Et il n'y a sans doute pas que des tirs au flanc, parce que là, franchement, c'est spectaculaire comme chiffre.
En tout cas, voilà ce que dit le responsable du personnel, c'est surtout pour les autres salariés, ceux qui sont dans l'usine et qui doivent faire le travail de ceux qui ne sont pas là. C'est surtout cette question-là qui les préoccupe.
Eh bien, le management en question, on va dire ça finalement. Merci beaucoup Frédéric d'être passé nous voir. Frédéric Bianchi, merci. Ben Aoudé Abdelhaim, merci beaucoup. Emmanuel, à très vite. Edwige, à demain, 18h.
Demain, c'est Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, parce que le résultat de son OPA qu'elle a lancé contre Unibet, la maison mère d'Unibet. Donc c'est un gros pari pour la Française des Jeux, un pari à plusieurs milliards.
Elle diversifier son offre.
Oui, surtout, c'est très structurant. Donc on verra demain si elle a réussi ou pas.
Stéphane Pallez, demain à 18h10 sur BFM Business. Oui, nouveau jeu,
Il y a plein de nouveaux jeux.
Essayez, allez voir. Oui. Décollerait plus après. 18h58, allez, on se retrouve dans un instant. Le journal, nos experts sont avec nous jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente... Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct dans l'actualité ce soir. Bien sûr, ce chiffre absolument effrayant qui est sorti aujourd'hui, 60 milliards. Va falloir faire un effort de 60 milliards d'euros l'an prochain pour réduire un tout petit peu nos déficits. Sauf que 60 milliards, on n'a jamais fait ça. Est-ce qu'on est capable de le faire? On va voir ça, bien sûr, dans un instant avec Thomas Asportas. Les prix du pétrole en légère baisse ce soir. Le Brent un petit peu en dessous des 74$, alors que le monde attend avec... beaucoup de craintes, bien sûr, les représailles israéliennes sur l'Iran. Jusqu'où est-on immunisé contre une forte hausse du prix du pétrole? On va parler de tout ça dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui reviennent, bien sûr, dans un quart d'heure sur BFM Business. Qui sera avec nous ce soir? Isabelle Bordry pour Rétinci, Emmanuel Botta pour le magazine Capital. Et puis l'homme des marchés, Wilfried Galland de Montpensier Finance. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est le chiffre qui est tombé aujourd'hui en France et qui fait très très mal, 60 milliards d'euros. Bonsoir Thomas Asportas, il va falloir faire 60 milliards d'euros d'efforts pour réduire un tout petit peu nos déficits l'an prochain. Qu'est-ce qu'on va devenir, Thomas?
Ah bah alors ça c'est pas moi qui vais m'en occuper, donc je sais pas, mais en tout cas on a tout intérêt à y arriver puisque c'est ça qui devrait nous ramener vers une petite baisse de déficit. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un montant sans précédent, c'est ce que nous ont indiqué ce matin les nouveaux locataires de Bercy avec le directeur de cabinet de Michel Barnier. Et je vous dis c'est un effort sans précédent pour descendre une petite marche parce que c'est pour permettre au déficit qui serait de 6,1% cette année, c'est la cible fixée par le nouveau gouvernement, pour le rabaisser à 5. Donc pour faire une petite marche, un point de déficit en moins, on ferait 60 milliards d'efforts. 60 milliards d'efforts, en vérité, c'est 2 points de PIB d'efforts. Enfin, 60 milliards, c'est 2 points de PIB aujourd'hui. Oui. Pour passer d'un déficit qui passerait à 7% l'année prochaine si on ne faisait rien, à 5% donc en 2025. Et ces 60 milliards, je vous corrigeais tout à l'heure, c'est que 60 milliards d'efforts, parce qu'on a 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts. Sur les hausses d'impôts, Bercy n'en a pas dit plus. On nous renvoie à la présentation du budget la semaine prochaine, ce sera le 10 octobre, pour avoir tous les détails. On a quand même une petite info, il y aura l'année prochaine 1,5 milliard d'euros de hausse de taxes pour verdir l'économie, 1,5 milliard d'euros de taxes vertes en plus, avec un durcissement, par exemple, du malus sur les véhicules les plus polluants et sur la fiscalité des transports aussi les plus polluants.
Donc 20 milliards de hausse d'impôts et donc on disait en parallèle 40 milliards d'euros d'économie, c'est ça hein?
Exactement. Voilà. Et alors Bercy a indiqué là pour le coup assez précisément comment l'effort allait être réparti. Ce sera 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la Sécu, 5 milliards pour les collectivités. Dans les 20 milliards pour l'État, on va reprendre les 15 milliards qui viennent des lettres plafond de Gabriel Attal et à ça on rajoute 5 milliards supplémentaires. Sur ces 5 milliards, il y aura 1 milliard d'économies chez les opérateurs de l'État et nous dit-on une réduction du nombre de fonctionnaires. Et pour les 15 milliards d'euros d'économies de la Sécurité sociale, Bercy a annoncé une petite bombe puisque les retraites seront revalorisées l'année prochaine sur l'inflation, qui est estimé à Bercy à 1,8% l'an prochain, mais uniquement à partir du 1er juillet.
Ouais.
Autrement dit, de janvier à juin 2025, les pensions vont rester les mêmes que cette année. Donc il y a un gel sur la moitié de l'année 2025 sur les pensions de retraite. Et tout ça donc pour ne faire reculer le déficit que d'un point. Et la dette va même continuer à augmenter, puisqu'elle était l'an dernier un peu en dessous de 111%. Cette année, on va passer à 113 et l'an prochain à 115. Et le reflux de la dette n'interviendrait pas avant 2029, date à laquelle le nouveau gouvernement espère amener le déficit sous les 3%.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Puis alors, côté économie, il faut qu'on dise un mot des collectivités locales qui vont être mises à contribution. Et il se trouve que vous avez un rapport qui est sorti ce matin qui fait beaucoup jaser. C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit clairement. Nous, on a trouvé sans problème de quoi leur faire faire des milliards et des milliards d'euros d'économies. Caroline Morisseau.
La Cour des comptes suggère d'abord de tailler dans les effectifs des collectivités avec la suppression de 100 000 postes d'ici à 2030, ce qui permettrait de revenir au niveau de 2010 et de réaliser près de 4 milliards d'euros d'économies par an à partir de cette date. Les sages considèrent que les effectifs et donc les dépenses de personnel des collectivités, qui représentent un quart de leurs dépenses, sont trop augmentées. Et ce, alors qu'il n'y a pas eu de transfert de compétences de la part de l'État. Autre levier pour réduire les dépenses, faire baisser l'absentéisme. La Cour des comptes pointe en effet les trop nombreux arrêts de travail, dérogations ou congés accordés sur des fondements juridiques fragiles. Une mesure qui pourrait cette fois rapporter 1,3 milliard d'euros par an. Autre piste encore, mutualiser les achats entre collectivités et faire davantage jouer la concurrence entre fournisseurs, avec à la clé cette fois une économie potentielle de 5 milliards d'euros par an, de quoi faire hurler les élus locaux. L'association des maires de France dénonce la brutalité de ces propositions.
Caroline Morisseau, sinon dans l'actualité ce soir, ça se précise, hein, l'Europe l'Europe devrait pouvoir bientôt appliquer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois. D'après plusieurs sources, la France, l'Italie, la Grèce et la Pologne devraient voter pour vendredi prochain, ce qui suffira au vu de leur poids accumulé dans l'Union européenne pour entériner la fameuse mesure. Côté entreprise, maintenant chez Céline, maison de couture détenue par LVMH. Le directeur de la création artistique, Eddy Slimane, quitte ses fonctions. Il était en poste depuis quasiment 7 ans. Il sera remplacé par l'Américain Michael Ryder, qui connaît déjà la maison. Le nom de Eddy Slimane, qui circule entre autres par ailleurs pour prendre la direction artistique de la maison Chanel. Et puis le patron de la SNCF, qui a mis un petit coup de pression à l'État ce matin à l'Assemblée. Il dit qu'il va falloir remettre de plus en plus de milliards pour l'entretien et la rénovation du réseau parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et donc ça devient difficile pour la SNCF. Écoutez Jean-Pierre Farandou.
Comment ça marchait avant ? À la française. Donc une entreprise publique, la SNCF, fait des TGV. Et les TGV qui gagnent de l'argent permettent de financer ceux qui en perdent. Je vais citer personne pour embarrasser personne, mais c'est le cas. Et il reste assez d'argent malgré tout pour avancer. Donc tout le monde était content. La concurrence, elle arrive pas sur les déficitaires. Elle arrive sur les lignes qui gagnent de l'argent. Donc petit à petit, l'endroit où la SNCF gagne de l'argent, ça va se réduire. Et s'il faut qu'on continue à faire les lignes déficitaires, on a un problème. Voilà, j'ai pas la solution. On est au début du problème, il n'est pas encore très grave. On tient bon. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, s'il s'avérait que les opérateurs concurrents sur la grande vitesse prennent une part importante des lignes qui gagnent de l'argent, alors là, je pense qu'on a un problème d'équilibre.
Voilà, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ce matin à l'Assemblée nationale, 19h09. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce soir à la Bourse de Paris ?
Une hausse in extremis. Hein. Vraiment, ça s'est dessiné en toute fin de séance parce qu'on a passé l'essentiel de la séance sur une légère baisse. Et puis, on a donné un dernier coup de rein là, en fin de séance, plus 0,05%. 7577 points pour le CAC 40. Les volumes d'échanges n'étaient pas extraordinaires. Hein. 3,5 milliards d'euros d'actions négociées. À noter que la tech a bien surperformé l'ensemble du marché avec plus 0,74% pour l'Euronext Tech Leaders. Mais enfin, on a fait mieux que l'ensemble des indices européens. Moins 0,25% pour le DAX à Francfort. On a un Eurostock 50 qui a fait un petit peu mieux, plus 0,18%. Enfin, globalement, on était bien orienté. Alors qu'il y a toujours une prime de risque géopolitique très très nette. Vous regardez les principales hausses du CAC 40. Total, plus de 24, on est à 60,64 €. On a Thales qui signe encore une belle performance dans le secteur de la défense, plus 0,9%, 147,50 €. On a Dassault Aviation qui était aussi en hausse sur le SBF 120, l'indice large. La tech, donc, qui était bien orientée, ST Microélectronique signe hausse d'1% à 26,29 €. Alors, vous parliez du pétrole.
Oui.
C'est vrai qu'on a quand même eu une correction assez nette ces dernières heures. On était, c'est vrai, proche des 75-76 $ hier. Là, on a quand même bien reculé du côté des 73-90 €. Donc, un petit moment de soulagement pour les marchés. Mais enfin, le risque géopolitique, il est toujours là et bien là. Pour preuve, quand même, encore une forte baisse d'Air France KLM qui signe la plus forte baisse du SBF 120, moins 5,5%, 7,95 €. Prime de risque géopolitique, hausse des prix du pétrole, et puis en plus, peut-être la perspective d'un renchérissement du coût des billets oui. avec une surtaxe gouvernementale. Donc tout ça fait du mal au titre hein, qui signe 2 jours de baisse assez nette. Plus forte baisse du CAC 40, c'est Edenred qui recule de 3% à 34,13 €. Puis à noter Renault hein, qui est attaqué depuis 2 jours. Alors que Stellantis se redresse un petit peu, Renault est dans le viseur, hein, moins 2,9% à 36,66 €. Alors que bon, on est dans un environnement où tous les constructeurs abaissent leurs prévisions et on attend que Renault fasse un petit peu la même chose. Pour l'instant, c'était pas fait, mais le titre est clairement attaqué en bourse. Donc le CAC 40 sur une toute petite hausse, plus 0,05%, 7577 points. Et puis l'euro qui paie le prix d'un dollar fort en ce moment, valeur refuge, hein, le dollar bien sûr, 1,1057 pour l'euro.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance bien sûr. Sur le marché américain, le Dow Jones qui perd 0,1%, c'est calme, à 42 110 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté, plus 0,1%, c'est quasiment calme aussi, 17 925 points. Tout ça à la mi-séance, 19h12, nos experts arrivent dans un instant, bien sûr, de quoi est-ce qu'on parle ce soir. On parle de la situation au Moyen-Orient, les marchés pétroliers calmes pour l'instant, qui ne veulent pas le croire à une escalade entre Israël et l'Iran. Et puis ce chiffre absolument effrayant, donc un effort à 60 milliards d'euros l'an prochain en France pour réduire un tout petit peu finalement nos déficits publics. Tout ça entre autres, plus d'autres choses jusqu'à 20h bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour décrypter bien sûr l'actualité économique encore pléthorique ce soir. Isabelle Bordré est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Guillaume.
Co-fondatrice de Rétinci. Wilfried Galland est avec nous. Wilfried, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Directeur de la stratégie de Montpensier Finance. Emmanuel Botta qui vient pour sa première ce soir. Bonsoir Emmanuel, bienvenue.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au magazine Capital. Alors on a beaucoup de choses ce soir encore, à commencer par les cours du pétrole. Bon, on va regarder ça si vous nous regardez à la télévision. Bon, alors ça s'est un petit peu enflammé hier soir. On est passé de 70 à 75 dollars sur le Brent. On est ce soir quasiment à 74, un petit peu en dessous des 74. Le monde est dans l'attente, évidemment, la crainte des représailles israéliennes sur l'Iran. Mais les marchés, on le voit, heure après heure, ne veulent toujours pas croire à ce stade, à une nouvelle escalade. Wilfried, hein, qu'est-ce qui justifie ce... cet optimisme, c'est un bien grand mot, mais...
Déjà, en fait, il faut bien comprendre comment le marché du pétrole est structuré. Le marché du pétrole, il est aujourd'hui, compte tenu du ralentissement économique mondial, il est structurellement en excédent d'offres.
Ouais.
Et donc, il est très difficile d'imaginer, ou en tout cas de se positionner de façon forte, sauf à imaginer un scénario vraiment d'embrasement du détroit d'Ormuz, qui pour l'instant n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que...
Il n'a jamais été perturbé, hein, le détroit d'Ormuz.
Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on suit, d'une certaine manière, le manuel géopolitique que tout le monde a, des différentes représailles à droite et à gauche, en fait, que personne n'est véritablement surpris. Et donc, par rapport à ça, moi, je regardais, hein, depuis un an, le baril de pétrole, il est en baisse, en fonction des références, que ce soit européennes ou américaines, ouais, d'environ 20%. Et même encore depuis un mois, il est en baisse de 4%. Donc en fait, il se passe pas grand-chose, sauf effectivement des investisseurs qui jouaient à la baisse très fortement le pétrole et qui à un moment donné dit bon, je vais quand même arrêter mes paris à la baisse. Alors, on dit dans les salles de marché, on dit souvent il y a trois éléments qui expliquent le prix du pétrole: l'offre, la demande et la spéculation. Mmh. Voilà. Et donc là, il y a effectivement des positions spéculatives qui sont probablement en train, au minimum, de revenir à peu près à un équilibre mesuré. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de surprise, le prix du pétrole, en tout cas, ne s'envole pas.
Tant qu'il n'y a pas de surprise, c'est ça, Emmanuel, finalement. Voilà.
Oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai que la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un choc pétrolier de 1973 ? Mais en fait, ouais, la situation a totalement changé. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et de très loin. Aujourd'hui, on a effectivement ce que vous expliquiez très bien, c'est qu'on a aussi des réserves, des installations qui ne sont absolument pas utilisées à plein. Et par ailleurs, effectivement, on sent que chacun joue une partition au millimètre et n'est pas très envie, en réalité, d'avoir un embrasement total.
Isabelle.
Oui, et puis c'est vrai qu'on va attendre ce qui se passe au Moyen-Orient, mais l'Iran aujourd'hui, c'est le 8e producteur de pétrole. Et l'Iran
n'est
pas soutenu.
3-4 millions de barils de jour.
3 millions.
Voilà, et l'Iran n'est pas soutenu par l'ensemble des pays arabes. Et donc, effectivement, depuis 10 ans, les États-Unis ont démultiplié par 2 ou par 3 leur production de pétrole, ce qui rend le marché totalement différent d'il y a une quinzaine d'années.
Et même les circuits géographiques ont changé. Donc, il y a beaucoup plus d'approvisionnements locaux, y compris dans des pays producteurs un peu plus marginaux en Amérique latine ou autre, plutôt que directement dans le détroit d'Ormuz.
Alors, on va pousser un petit peu la réflexion. On est en visio, comme on dit, avec Thierry Bros, grand spécialiste des matières premières et de l'énergie. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Je vais jouer les mouches du coche, hier, à tout ce que nous ont dit nos amis ici en plateau. Qu'est-ce qui pourrait faire s'envoler à un moment donné les marchés pétroliers pour vous, Thierry, finalement, ou pas?
Bonsoir. Oui, je crois que tout ce qui a été dit est exact. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement les volumes que produit l'Iran. C'est le 5e producteur mondial, mais surtout les volumes qu'exporte l'Iran, puisque dans l'équilibre offre-demande, c'est ça qui est important. Et l'Iran, finalement, depuis des années, sous sanctions américaines, il n'exporte finalement pas beaucoup. Il devrait théoriquement exporter zéro, mais ils exportent de l'ordre de 2 millions de barils par jour. Et comme ça a été très bien évoqué sur votre plateau, il y a ce qu'on appelle de la production inemployée au sein de l'OPEP. Et cette production inemployée est de l'ordre de 4 millions de barils par jour.
Et vous pensez que les autres pays de l'OPEP seraient prêts à remettre au pot, pardon de le dire comme ça, finalement?
Oui, alors... Pourquoi
Thierry? Parce qu'on peut se dire aussi que ça maintient les prix à un niveau assez satisfaisant pour ces pays. Pourquoi est-ce qu'ils remettraient au pot?
Alors, d'abord, ils n'ont pas remis au pot, ils vont pas remettre au pot tout de suite, parce qu'eux préfèrent un prix de l'ordre de 80 à 90 dollars par baril. Par contre, ils n'ont aucun intérêt à avoir un prix s'enflammer, parce qu'au-delà de 100 dollars par baril, il risquerait de se produire ce que nous avons vu en Europe en 2021 et 2022 dans le gaz, c'est-à-dire une transition énergétique accélérée. Mmh. Et ces pays-là ont besoin de la rente pétrolière sur le long terme. Et donc, je pense qu'ils viendraient à réapprovisionner les marchés si on venait à compléter complètement perdre les exportations iraniennes, ce qui est le cas le plus terrible.
C'est le cas le plus extrême. Mais vous nous dites que dans ce cas extrême, les autres pays membres de l'OPEP, pour certains, seraient prêts à aller laisser le marché, le baril chatouiller les 100 dollars avant éventuellement de réagir. C'est ça que vous nous dites finalement.
Oui, je pense que l'ordre de grandeur qu'a toujours donné l'OPEP, c'est de 80 à 100 dollars le baril. Et donc, effectivement, en dessous de 90, ils ne feront pas grand-chose. Ouais. Mais au-delà, oui, ils voudront éviter une crise pétrolière, parce qu'une crise pétrolière, c'est effectivement des consommateurs qui sont pas d'accord et qui, après des années de procrastination, font des achats ou font des investissements pour sortir du pétrole, comme on l'a vu en Europe en 2021 et 2022 sur le gaz.
Ça semble rassurer les marchés. Et puis l'autre chose auquel apparemment les marchés se raccrochent, Thierry, c'est qu'il y a l'idée qu'il y a certains pays qui portent diplomatiquement, comme les États-Unis, comme la Russie ou comme la Chine, qui seraient là éventuellement pour retenir la main et freiner les velléités des uns et des autres. Ça, c'est l'argument des marchés. Est-ce que vous l'achetez, vous, cet argument, Thierry?
Alors, moi, je n'achète pas tout à fait cet argument-là. J'achète plutôt l'argument où je pense que les Israéliens pourraient avoir des idées plus intelligentes qu'arrêter la production pétrolière iranienne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, plutôt essayer de viser les raffineries, parce qu'à ce moment-là, vous créez un manque de produits pétroliers en Iran, ce qui gêne et l'armée et la population.
Voilà pour l'état du marché ce soir. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Thierry Brosse avec nous sur BFM Business. Bon, les marchés vont se raccrocher à ces espérances.
Oui, et puis sur le fait aussi que l'OPEP est incapable d'avoir de la discipline au sein de ses membres. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les annonces de l'OPEP de restriction de production ne sont pas suivies d'effet. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de l'OPEP des pays qui en fait produisent beaucoup plus.
Donc l'OPEP, c'est la zizanie l'OPEP.
En fait, ça veut dire que non seulement en dehors de l'OPEP, ce qui a été très bien expliqué, en dehors de l'OPEP, il y a des pays qui produisent de plus en plus, mais même à l'intérieur de l'OPEP, le Kazakhstan par exemple produit bien plus que ce qu'il doit produire. Donc en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin de volume. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des prix qui sont relativement faibles, parce que le pétrole, ne l'oublions pas, d'abord et avant tout, c'est un marché de demande. Oui. Si la demande n'est pas là, vous avez beau faire ce que vous voulez, à un moment donné, compte tenu du pétrole de schiste américain, vous serez en surcapacité. Et donc, vous prenez des parts de marché. C'est aussi simple que ça.
Mais la demande est là. Oui,
Isabelle. Il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est qu'il n'y a plus une si forte dépendance à un pays ou à un petit nombre de pays. Ça a vraiment changé.
La demande, elle est là. Patrick Pouyanné, qui venait de Journée Investisseur aujourd'hui à New York, l'a encore rappelé, la demande de GNL, elle est là.
Enfin, la demande de GNL, oui. Pas la demande de pétrole.
La demande de GNL.
Ah oui, c'est très différent. Le monde est beaucoup moins dépendant de pétrole qu'on était il y a 20 ans.
Emmanuel.
Oui c'est vrai qu'effectivement, tout ça est sur... ce qui change aussi énormément, c'est que là, on est sur un fonds de transition écologique accéléré. Enfin, on a dans les voitures, on voit bien, même si ça peine encore à décoller, il y a quand même vraiment une accélération de l'électrification des véhicules. Et ce qu'expliquait l'expert, effectivement, c'est qu'aller trop sur le prix du pétrole, c'est accélérer ce mouvement. Et donc, c'est coupé plus rapidement que prévu la branche sur laquelle on est assis. Enfin, c'est assez basique, c'est ça les réflexions en cours.
Voilà, pour la situation Moyen-Orient, je résiste pour plaisir de vous faire écouter Donald Trump qui a réagi à sa façon, qui a mis un petit peu d'huile sur le feu sur cette situation au Moyen-Orient, évidemment. Écoutez, tiens.
Le président des États-Unis devrait faire exploser ce pays en 1000 morceaux, car vous ne pouvez pas faire ça. Et le président devrait faire une déclaration à cet effet. Mais comme vous le savez, vous êtes en danger en ce moment. Vous êtes en danger maintenant à cause d'eux et de leur défiance envers moi. Nous allons donc évidemment être très impliqués au Moyen-Orient. Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous avons signé les accords d'Abraham.
Voilà, tous les moyens sont bons, hein, une semaine, un mois de l'élection présidentielle américaine, évidemment, pour faire un petit peu de buzz. Voilà.
Comme on dit, hein, parfois ça hausse tout et c'est à ça qu'on les reconnaît.
Absolument, voilà donc pour cette situation du côté du pétrole, du côté du Moyen-Orient. Ça s'est envoyé, Wilfried, voilà.
Absolument.
La France, le budget 2025, donc ce chiffre absolument terrifiant dont nous avons eu connaissance à la mi-journée, il faudra faire un effort de 60 milliards d'euros l'an prochain, entre hausse des impôts et baisse des dépenses publiques, pour ramener quoi nos déficits à 5% du PIB à la fin 2025, 40 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques, 20 milliards d'euros. Vous nous confirmez qu'on n'a jamais fait ça? On est d'accord, Emmanuel?
C'est du jamais vu, mais de la même façon que la hauteur du déficit n'a jamais aussi du jamais vu. Enfin, on va atteindre peut-être dépasser les 6%, on parle de 6,1% du PIB hors crise. C'est du jamais vu. Donc là, on est effectivement... Et par ailleurs... Je pense que les précédents gouvernements avaient été très très optimistes, notamment sur les taux de croissance. Alors là, je ne sais pas si Barnier est dubitable sur une croissance modeste de 1,1%.
Mais c'est ce qu'il nous dit. Il est un peu en dessous du consensus. Ouais. Voilà, il est un peu en dessous du consensus. Ouais.
Peut-être qu'il joue aussi la prudence.
Exactement.
Mais le fait est qu'effectivement, oui, la dette s'envole. Le poids de la charge est devenu le deuxième budget derrière l'éducation.
Ouais. Pardon. Pour combien de temps, on ne sait pas. Oui, effectivement. Ouais.
Donc oui, il y a un effort gigantesque qui doit être fait. Maintenant, la question, c'est un peu comment, parce que ça reste assez nébuleux.
Ça vous paraît fumeux, là, ce qui était annoncé? On a un petit détail quand même sur les dépenses, sur les hausses d'impôts. Là, oui. On continue de se planquer sous le tapis, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais Emmanuel Lechypre rappelait tout à l'heure, c'est l'équivalent de 2 points de PIB. La dernière fois qu'on a été capable de réduire nos déficits de 2 points de PIB, c'était entre 93 et 98. Ça a mis 5 ans pour le faire.
C'est aussi à peu près l'équivalent, quelques 5 milliards près, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Oui,
c'est ce qu'on récolte, parce qu'en fait, c'est bien de mettre les dépenses par rapport aux revenus.
Non, mais vous y croyez à cet effort ou pas? Est-ce que vous croyez capable de... Ou alors non. On dit c'est ce qui va arriver au Parlement fin octobre, et puis on verra ce qui leur sortira fin décembre.
Je trouve que Barnier hier a quand même été très bon, parce qu'il a donné les chiffres, il a expliqué, il a été posé. Le fait qu'il donne les 51 milliards en expliquant effectivement que c'était le deuxième budget, c'est-à-dire la charge de la dette qui était à 51 milliards, en expliquant donc qu'il fallait 60 milliards d'économies et qu'il fallait les trouver, enfin 40 milliards d'économies dans les dépenses et 20 milliards de recettes supplémentaires. Il a été quand même extrêmement pédagogue du haut de son expérience et de sa sagesse. On avait l'impression que c'était un peu, je ne vais pas dire comme un chef d'entreprise, mais toute l'idée là, c'était de rassurer les marchés. Depuis 15 jours, 3 semaines, on a un prix de la dette qui est supérieur au Portugal et à l'Espagne.
C'est vrai.
Donc, il y avait une démission hier de Barnier, avant qu'on rentre dans un débat qui risque d'être compliqué sur comment on fait, de rassurer déjà et d'essayer d'apaiser les investisseurs.
Vous l'avez trouvé rassurant. C'est quelque chose de très clivant. Vous me dites, j'ai trouvé
ça
rassurant.
Moi, je l'ai trouvé rassurant, je l'ai trouvé serein, et j'ai trouvé toute sa posture d'une grande sagesse face à certains dans l'hémicycle qui étaient particulièrement indisciplinés et irrespectueux par rapport, je trouve, à la démarche et au débat.
Vous êtes rassuré, certains disent dans la méthode, il n'y a rien de nouveau, on fait là ce qu'on fait depuis 40 ans, donc les mêmes causes et les mêmes actions produiront les mêmes effets. C'est très clivant.
On ne peut pas attendre autre chose d'un discours de politique générale compte tenu de la configuration. Alors, de l'Assemblée, c'est impossible.
Maintenant, cela dit, les 20 milliards de recettes qu'ils réclament, on les a fait, je crois que ça a été la même chose en 2011-2012. Ouais. Donc ce sont des choses qui ont déjà été faites. Effectivement, 60 milliards, c'est un petit peu moins que l'impôt sur les sociétés et un petit peu moins que l'impôt sur les revenus. Mais c'est aussi les niches fiscales sur lesquelles on peut quand même raboter. Oui. Le plus compliqué va être les 40 milliards.
Oui, c'est bien sûr.
Les 40 milliards risquent en un an, c'est quelque chose.
Autant les 20 milliards, on les voit.
Les 20 milliards,
on les voit, c'est bien. Pour vous, c'est OK.
De toute façon, le truc qu'on sait extrêmement bien faire en France, c'est créer de nouveaux impôts.
Diminuer les dépenses.
Non, mais c'est le principe. Il y a le
saut. Pour cette époque révolue, non, finalement.
Non, mais c'est le principe. Il y a le saut qui fuit. On sait qu'on devrait, on devrait arrêter la fuite, mais on préfère remettre de l'eau.
Oui, les 20 milliards, c'est vraiment pas très compliqué.
Non, mais sur les 40 milliards.
C'est les 40 milliards.
Sur les 40 milliards d'économies, est-ce que vous dites, voilà, on dit 40 milliards, et puis on sait que ça va être effroyable de toute façon à l'Assemblée quand ça va arriver. Est-ce qu'on dit 40 milliards, allez, pour aller chercher 30, 25, je ne sais pas, à l'arrivée, étant donné qu'on sait ce que va être le débat budgétaire à
l'automne? Absolument pas. Enfin, d'ailleurs, même les quelques mesures qui ont été annoncées, c'était des mesures très symboliques. Alors, on va effectivement fusionner Business France et France.
Mais ça,
ça ne va pas changer la face du
monde. Le plan et la stratégie, je crois.
On est tous d'accord, c'est très bien, mais là, on est quand même très loin des 60 milliards. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, il l'a évoqué très vite, c'est il a parlé de la productivité des fonctionnaires. Je suis assez étonné, d'ailleurs, que les fonctionnaires aujourd'hui soient pas vent debout, parce que il a quand même dit très clairement, il va falloir augmenter la productivité des fonctionnaires. Comment on formalise ça et comment il va le faire, je sais pas, mais il l'a dit de manière très claire.
Vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes aujourd'hui qui est absolument sanguinaire, qui dit qu'il faut supprimer 120 000 postes dans les collectivités locales pour revenir au niveau de 2010. Trop d'absentéisme, pas assez de redéploiement. Voilà, l'Association des maires de France qui a hurlé, qui a dit qu'on ne peut pas s'en tenir à des
aspects. Oui, mais les plateaux de télévision bruissent régulièrement de nouvelles sur le fait qu'on n'arrive pas à, ne serait-ce qu'à aller à 35 heures dans plusieurs collectivités locales. Enfin, je pense que c'est une surprise pour personne. Donc maintenant, effectivement, il y a un sujet, on le sait globalement, de volume de travail en France. Pas véritablement sur cet aspect-là, mais plus global.
Et toutes les lois de décentralisation qui se sont empilées en fait depuis maintenant 20 ans n'ont eu de cesse d'augmenter des strates de personnel dans le département, la commune, etc. Et c'est effectivement quelque chose de très compliqué aujourd'hui.
Oui, parlant, c'est un Français sur cinq qui travaille dans la fonction publique. C'est 21%, je crois, effectivement, de la population française. Quand en Allemagne, on doit être à 11%, en Angleterre, 16%. Enfin,
les chiffres qui étaient rappelés, le budget de l'éducation est le même qu'en Allemagne. Et pourtant, les professeurs sont moins bien payés. Donc ça veut dire que tout part dans le back-office. Oui. Et c'est juste pas efficace. C'est cette notion d'efficacité qu'il a citée plusieurs fois, c'est-à-dire que les Français attendent une efficacité de l'impôt, est assez nouvelle, je trouve, dans le discours politique, et je trouve extrêmement saine.
Bon, les collectivités locales, en tout cas, contribution de 5 à 7 milliards, mais ça aussi, c'est à détailler, bien sûr. 19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h36, nos experts sont là encore pendant 20 minutes sans pub. Je le dis parce que c'est un argument de vente comme un autre.
Ah, c'est un très bon argument de vente, Guillaume, bravo.
Quoi qu'on en dise en 2024.
Et
Isabelle Bordry.
Des intervenants.
Bien sûr, aussi. Et de les citer dans la foulée. Isabelle Bordry, Wilfried Galland et Emmanuel Botta avec nous. On disait donc 40 milliards d'euros d'économies dans la dépense publique. Il y en a qui ont des idées forcément pour faire plus. Écoutez Laurent Wauquiez qui a sa formule à lui toute prête, évidemment.
Considère qu'il est possible de faire 50 milliards d'euros d'économies en allant au-delà de ce qui est l'objectif affiché à ce stade par le gouvernement. Et donc pour nous, d'avoir un équilibrage qui permettrait de faire moins de hausse d'impôts et plus d'économies. En termes de plan d'économie, les trois grandes masses, elles sont d'une part sur réduire la lourdeur administrative, en gros 13 milliards d'euros, l'équilibre entre le social et l'assistanat, à peu près 12 milliards d'euros, et un meilleur contrôle de l'immigration, 7 milliards d'euros, auquel vient s'ajouter le principe de l'année blanche pour les dépenses publiques hors régalien.
Ouais, bah une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose. Hein. Bah, ça vous donne un avant-goût de ce qui va se passer au Parlement quand même à partir
De toute façon, l'histoire est écrite au Parlement. On sait que le projet de loi de finances va être détricoté et à la fin, c'est le gouvernement qui va choisir via l'un 49-3 puisqu'il n'y a pas de majorité, il n'y aura pas de majorité pour voter le budget. Voilà, et après la question, c'est est-ce qu'il y aura une majorité suffisamment forte contre eux pour voter la censure ou pas. Enfin, on sait comment ça va se passer.
Ouais. D'accord, Emmanuel,
oui, je suis d'accord. Ça semble évident et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Barnier part d'un montant très haut, bien 60 sûr, milliards, en se disant ça va être tellement tricoté qu'effectivement, si j'arrive à avoir la moitié, je signe tout de suite.
Oui, bon, enfin, là, vous n'envoyez pas de bon message à Bruxelles ni aux investisseurs. Si vous dites je pars sur 60 milliards d'euros d'efforts et qu'il vous reste, je ne sais pas, à peine les deux tiers à la fin,
je pense que déjà, d'accord. Déjà, Bruxelles est relativement rassurée d'avoir quelqu'un qui connaisse à la tête du gouvernement. Si déjà il se monte sur une trajectoire plutôt positive.
Oui. Vous croyez que parce qu'il a été 10 ans commissaire européen, on va lui faire une ristourne, c'est ça que vous dites
Quand on l'examine, on se désespère. Quand on le compare, on se rassure.
Non, je ne sais pas, mais Emmanuel, on part sur 60 pour gratter 50.
Il n'aura pas tellement le choix. Je pense que effectivement, quand même, Barnier est rassurant parce que ils savent que tôt ou tard il va quand même infléchir un peu la trajectoire. D'ailleurs, il a déjà repoussé de 2027 à 2029 les 3%. C'est un peu comme s'il avait déjà anticipé que de toute façon, il n'y arriverait pas à avoir ses 60 milliards. Enfin, on peut le dire comme ça en tout cas, mais...
Absolument.
Non, mais je trouve que la position de Wauquiez montre qu'à un moment donné, il va voter pour et qu'il va être même plutôt pushy pour essayer de trouver plus de dépenses. Je ne sais pas si ça sera accepté, mais je trouve que dans une dynamique où il faut faire des économies, là, pour le coup, on sait que les LR modérés vont suivre le gouvernement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver 7 milliards avec la politique immigration, 12 milliards chez les collectivités locales?
Ah bah, il faut que vous
ça
dites
m'étonne
ça, vous
beaucoup de Wauquiez d'expliquer qu'il y a 12 milliards de gras ou d'économies à faire dans les collectivités locales. Maintenant, s'il le dit, il va peut-être les trouver et c'est peut-être une bonne chose à mettre dans le débat.
Je suis étonné que vous me disiez que vous avez été emballé, enfin je ne sais pas si c'est le terme, emballé par le discours de Michel Barnier, parce que vous qui êtes chef d'entreprise, qui évoluez dans la tech, évidemment, il a très peu parlé de tech hier, il n'a pas parlé d'innovation, est-ce qu'il a parlé d'intelligence artificielle? Oui, je crois qu'il a dû citer l'intelligence artificielle.
Alors effectivement, il a parlé de l'innovation, parce que je pense qu'il fallait parler de l'innovation comme un des pôles d'investissement qui ne serait pas oublié et sur lequel il n'y aurait pas d'économie. Je crois que c'est comme ça qu'il l'a positionné dans son discours. Maintenant, je suis assez fan du choix de Clara Chappaz. Parce que c'est effectivement
secrétaire d'État à l'intelligence.
Secrétaire d'État qui vient d'être nommé, c'est la société civile. Je pense que dans des secteurs qui sont en permanente évolution, c'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un qui est issu de la société civile et qui connaît les acteurs avec leurs forces et les faiblesses, etc. et les dynamiques. Et puis je trouve que c'est une très bonne chose. C'est tout à fait intéressant qu'elle soit sous la tutelle du ministère de l'Éducation supérieure ou de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas exactement quelle est libellée. Parce que, avant d'avoir effectivement des financements, il faut savoir conserver ses talents. En France, on a la chance d'avoir des écoles d'ingénieurs absolument excellentes, des mathématiciens de renom, des médailles Fields, énormément. Normal Sup, c'est quand même l'école qui a produit, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais en tous les cas, fait en sorte d'avoir le plus de médailles Fields au monde. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les retenir. Donc si effectivement, cet alliage du ministère du numérique avec le ministère de l'enseignement supérieur permet de créer plus de liens avec des chaires et de retenir nos étudiants, je trouve ça tout à fait positif.
À condition qu'on lui lâche un peu la bride et qu'on la laisse bosser, voilà, qu'elle n'ait pas un ministère de tutelle trop prégnant. Enfin, ça, c'est la question. L'avenir, même immédiat, le dira. Tiens, une dernière petite chose concernant les hausses d'impôts qui vont être demandées aux entreprises. Écoutez, Antoine Armand, le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances, à qui on a demandé ce matin très précisément, quand vous dites temporaire exceptionnel, est-ce que c'est seulement pour un an ? Pas plus. Écoutez ce qu'il répond.
Vous aurez l'occasion de voir dès la semaine prochaine, mais vous avez raison de poser cette question parce que en France, on connaît le temporaire pérennisé.
Ouais.
À nouveau, et j'aurai l'occasion de le dire à la fois aux entreprises, avec le ministre du Budget, aux particuliers, ce sera exceptionnel, temporaire. Ça ne sera pas une hausse pour plusieurs années sur l'ensemble des postes de fiscalité.
Donc c'est un an ou deux, c'est ça ? On est à peu près dans les clous si on dit un an ou deux.
En tout cas, il est hors de question que ça dure plusieurs années de suite au même niveau pour tout le monde.
Ah, il répond pas quoi. C'est-à-dire
que il répond et
provisoire qui dure, c'est pour ça.
Entre deux années consécutives, on peut avoir une pause quoi.
Oui, non, mais ça, c'est surtout qu'on ne sait pas combien de temps lui va rester.
En plus,
on ne sait pas quelle va être la décision de ses successeurs. Voilà, donc c'est effectivement toujours difficile.
Vous méfiez du provisoire qui dure, vous, Emmanuel ?
Ah, en tout cas, déjà, effectivement, quand il commence à essayer de détailler sa mesure et qu'on comprend de moins en moins où il va, et bon, je me dis que c'est assez mal parti. Mais oui, enfin, là, ça semble assez évident qu'effectivement, l'effort aux entreprises, il va être, notamment aux grandes entreprises, il va être conséquent, et je ne pense pas que ça sera juste pour un an, parce qu'effectivement, si on veut que ça rapporte un peu dans les caisses...
Mais on commence à entendre dire que ça pourrait être 2-3 ans.
Ouais,
quoi. Donc, votre temporaire, là,
mais ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'en fait, on se focalise sur les grandes entreprises et sur leurs bénéfices. Mais les bénéfices de beaucoup de grandes entreprises sont mondiaux. Donc en fait, et on l'a vu d'ailleurs dans les là, c'est la casquette d'homme de marché qui parle. Mais on l'a vu dans les marchés. Ceux qui ont été attaqués les entreprises qui ont été attaquées dans les marchés suite aux déclarations sont celles dont l'essentiel de leur activité est en France.
Oui.
Les banques, les grandes compagnies de services publics, c'est ça effectivement. Ceux qui effectivement ont 80-90% de leur activité à l'étranger, en fait, ne pourront mécaniquement pas être touchés.
Et d'ailleurs,
par cette imposition.
Patrick Pouyanné, qui est à New York, qui tenait sa journée investisseur aujourd'hui à New York, a dit tout à l'heure, entre autres déclarations, je ne suis pas très inquiet, par exemple.
Il doit faire 15% de son profit en France.
Ouais, ça, c'est un côté démagogique, effectivement.
Il l'a dit, en tout cas. Mais il n'est pas inquiet, voilà, c'est l'essentiel. Un dernier petit mot pour vous dire que, alors regardez la télévision si vous nous regardez, le calendrier des agences de notation, parce que mine de rien, ça arrive. Fitch Rating qui va se repositionner sur notre note ou pas, on verra, mais c'est le 11 octobre, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours que Fitch va parler. Moody's le 25 octobre, et puis Standard Poor's le 29 novembre prochain, ça nous paraît des vendredis. Ça annonce des vendredis.
C'est intéressant, mais après, il faut voir ceux qui avaient déjà mis sous surveillance négative ou pas. Vous pouvez, parce que quand vous ne mettez pas sous surveillance négative, vous ne pouvez pas dégrader tout de suite.
On verra. Ça commence avec Fitch, premier feu d'artifice dans une dizaine de jours. 19h44, on va parler immobilier. J'accueille Marie-Cœur de Roy qui va nous rejoindre pour notre plus grand bonheur sur le plateau. Bonsoir Marie.
J'attends de m'installer pour dire bonsoir.
Écoutez, ouvrez le micro et voilà.
Voilà, c'est pas mal.
Il faut être à l'aise, Marie.
Salut
Marie.
On est parlé logement parce que Michel Barnier, alors on le disait hier soir, c'est peut-être là-dessus qu'il nous a paru le plus prolixe. Qu'est-ce qu'il a promis ?
Oh, beaucoup de choses.
Ouais, d'étendre le PTZ à tout le territoire, d'adapter le calendrier du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, et il a parlé de mesures pour relancer l'accession à la propriété et l'investissement locatif. Ça, c'était hier après-midi.
Les ZAN aussi, les zéros artificiels.
Ouais. Ouais, il va revenir sur le ZAN. Ouais.
24 heures après, qu'est-ce qui reste de tout ça, Marie ?
Pour l'instant, il reste 2-3 trucs, mais surtout, le principal message, c'est qu'on a un Premier ministre qui nous a dit qu'il n'était pas en cohabitation sur le logement. Il fait tout ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Il détricote complètement la politique menée sur le sujet depuis 2017. Alors, les choses commencent à se dessiner. Maintenant, on sait très bien que ça va être un jeu entre les parlementaires, mais qu'il y a quand même une forme de consensus autour de l'état de la crise du logement. Ça fait des années qu'on le lit, maintenant, c'est bon. Tout le monde l'a constaté. Alors, sur le prêt à taux zéro, première bonne nouvelle, effectivement, c'est donc l'étendre à tout le territoire, puisque je vous rappelle que depuis cette année 2024, pour l'achat d'un logement neuf, c'est que les appartements et plus les maisons, et que dans les zones tendues. Donc, ce qu'on croit comprendre à ce stade, c'est qu'on va l'étendre donc à tout le territoire pour les achats de logements neufs, appartements neufs, pour les maisons, il y a une réintégration partielle. Attention, hein, le diable se cache dans les
détails. Attention, subtilité.
C'est-à-dire tous les constructeurs des maisons étaient là, youpi. Et en fait, finalement, il s'agirait finalement de réintégrer ce qu'on appelle la maison individuelle groupée. Qu'est-ce la maison individuelle groupée?
C'est les lotissements, quoi.
Gros. En gros.
Il n'y a aucune poésie, là.
Mais et donc, le problème, c'est que c'est moins 10% de la production de la construction de maisons neuves en France. Donc, il va falloir regarder ce qu'on va véritablement faire sur le prêt à taux zéro. Mais globalement, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait fait le prêt à taux zéro le plus puissant qu'il soit en 2011. Il y avait eu 350 000 PTZ distribués. On est à environ 48 000 PTZ l'an dernier. Vous imaginez le chemin à parcourir. Bref, PTZ, c'est ça. Sur l'investissement locatif, à ceux qui espéraient une prolongation du PINEL, c'est pas possible. PINEL, c'est un gros mot. Voilà ce qu'on nous a dit. Hein. PINEL, c'est un gros mot à Bercy, ça ne passe pas. En revanche, il y a une histoire. Et puis, il y a une histoire d'argent aussi, évidemment. Enfin bon, c'est d'un mot quand même, hein. Le logement, ça rapporte beaucoup plus que ça coûte. 40 milliards de dépenses, 95 milliards de recettes, j'insiste lourdement, mais quand même. Donc, pas de Pinel, ne rêvez pas. En revanche, on va construire le fameux statut du bailleur privé, mais ça va prendre du temps, et là, on a besoin de mesures urgentes. C'est la Fédération des promoteurs immobiliers qui aurait été entendue, selon nos informations, avec une mesure d'exonération sur les droits de succession pour l'achat d'un logement neuf, que ce soit pour les propriétaires occupants ou les propriétaires investisseurs, les fameux déçus de la disparition du Pinel, une fenêtre de tir fiscale de 18 mois seulement. Et puis en plus, l'avantage, c'est que du coup, ça aura un manque à gagner que dans le temps, puisque c'est la succession à la donation. Donc en fait, ça va rapporter en TVA.
C'est la durée anticipée du gouvernement, 18 mois.
18 mois.
Je ne sais pas le dire.
Ça avait déjà été fait dans les années 90.
Exactement. Il s'inspire d'Edouard Balladur, effectivement, 93. Exactement. Et ça avait pas mal fonctionné, même si, alors, c'est ce que nous disent évidemment les professionnels du secteur. Mais quel dommage, on n'a pas de retour sur expérience. Donc voilà, on verra bien. Mais effectivement, ça a un sens. Alors simplement, il y en a qui me disent, à l'époque, il y avait un problème de stock de logements neufs et l'idée c'était de déstocker. La crise était complètement différente dans les années 80.
Là, il n'y a pas de logement neuf, il n'y a pas de suffisamment de logements neufs.
Là, il va falloir faire plein de choses quand même.
Il va falloir déjà construire les logements.
Il va falloir qu'il y ait du stock, mais bon.
D'accord. Et sur le zéro artificialisation.
Sur le zéro artificialisation net, oui, c'est aussi une mesure qui peut aider. Maintenant, le problème c'est que
ça, vraiment, ça libérait beaucoup de foncier. Parce que
non, mais le problème c'est qu'en fait, vous avez beaucoup d'élus locaux qui avaient anticipé le ZAN et qui, par peur, ne construisaient plus du tout. Donc là, on va lever un tout petit peu aussi. Les verrous, ça prend du temps, voilà. Mais le fait est que pour moi, je vous le dis d'un mot quand même, la décision la plus forte, même si c'est important le prêt à taux zéro, des soutiens, machin, etc. Ce qui se passe sur le DPE, c'est quand même pas rien. Encore une fois, pendant les élections législatives, on a une élection qui aurait pu se faire là-dessus. C'est très populiste comme mesure. Je le dis comme ça, mais supprimer le calendrier, on savait qu'il n'était pas tenable. Mais il y avait un affichage. Là, vous avez quand même une filière qui s'est créée de toutes pièces sur ce calendrier de rénovation de passoires. Là, vous le savez maintenant, à partir du 1er janvier 2025, les logements G ne seront plus interdits à la location. Tous ceux qui ont fait les travaux avant et qui ont pensé valoriser leur patrimoine. En fait, finalement, non, parce que ça a une incidence sur les prix.
Ils l'ont valorisé un peu, quand même.
Ils l'ont valorisé un peu, mais l'écart, Wilfried, l'écart entre les passoires et les logements performants qui s'était creusé à mesure que les échéances approchaient, c'est terminé. Et cette filière, ces dizaines de milliers d'emplois créés au-dessus, je pense aux diagnostiqueurs qu'on a beaucoup critiqués, mais il n'y a pas que, les MaPrimeRénov et tous ceux, mais mon accompagnateur Rénov, etc., ça peut avoir une incidence quand même considérable sur tout ce marché-là.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça renverse un peu la table, un tant soit peu?
Oui, quand même, il s'attaque effectivement à deux totems de la loi résilience et climat 2024, effectivement, que ce soit effectivement le calendrier sur les passoires thermiques et la loi sur le zéro artificialisation nette, qui était quand même effectivement des totems auxquels différents gouvernements n'ont jamais voulu s'attaquer. Est-ce que ça réglera la question? Je ne suis pas sûr. Moi, je suis étonné un peu, effectivement, qu'il n'y ait pas l'amorce d'un nouveau Pinel. Parce qu'on peut aussi changer le nom et garder le.
Alors, a priori, dans les tuyaux, il y a quand même l'idée. Mais ça fait des années. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je couvre le secteur et ça fait 10 ans qu'on m'en parle. Mais de la création du véritable statut du bailleur privé, mais qui conserverait le neuf comme l'ancien, qui serait une forme de statut plus pérenne, qui serait plus ce qu'ils nous disent. Une niche fiscale, mais un dispositif pérenne pour soutenir l'investissement locatif et reconnaître le rôle finalement aussi social du bailleur privé.
Bon, ce qui permettra peut-être d'ajuster en particulier la fameuse statut de loueur en meublé professionnel.
Les LMNP qui sont dans les tuyaux.
Parce qu'en fait, il va falloir trouver un équilibre financier et probablement c'est via ça qu'on va trouver l'équilibre financier dans les mesures.
Isabelle. Il y a un point très important qu'il a dit aussi, je trouve, dans son discours hier, c'est le fait de la mobilité sociale dans les logements sociaux. Et ça, c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé sur ces
plateaux, un logement social, oui. La vie oui. est une ineptie.
Oui, alors mais là, sauf que ce n'est pas vrai. Techniquement, ce n'est pas vrai. Je vais mettre très en plus.
Et donc le fait aujourd'hui, j'espère qu'il va donner les moyens aux bailleurs sociaux de faire en sorte de vérifier le patrimoine et les évolutions de revenus des différents locataires.
C'est déjà fait. C'est fait tous les ans.
D'essentiel.
Mais c'est fait tous les ans. Et moi, je suis désolée, sur le parc social, la problématique, c'est pas de virer ceux qui sont déjà présents, c'est d'agrandir le gâteau.
C'est de en le fait, faire évoluer.
Oui, mais sauf que là, en l'occurrence, c'est là où vous avez raison. Il faut leur donner des moyens. Il y a une mesure. À chaque fois, je reviens et tout le monde me dit arrête de parler de cette mesure. Mais quand même, on va en parler parce que tout le monde pense que c'est trop compliqué pour que les gens la comprennent. La RLS, la réduction du loyer de solidarité. Depuis 2018, le gouvernement a fait quoi? Il a dit je vais baisser les APL des locataires du parc social. C'est dégueulasse. Donc, qu'est-ce que je fais? En échange, je demande aux bailleurs sociaux de baisser d'autant les loyers qu'ils perçoivent. Vous savez ce que c'est? À BFM Business, on sait ce que c'est. C'est une taxe sur le chiffre d'affaires et pas le résultat. Le chiffre d'affaires. 1,2 milliard d'euros chaque année, voilà ce que ça coûte aux bailleurs sociaux. En rythme de croisière, normalement, les logements sociaux, ils produisent environ 120 000 logements par an. On est à 80 000. C'est un drame. Ils n'ont pas les moyens de construire, ils n'ont pas les moyens de rénover. Donc à un moment donné, moi, je veux bien qu'on dise, c'est pas grave s'il n'y a pas de place supplémentaire, on n'a qu'à virer ceux qui y sont déjà. Non, la solution, c'est aussi de construire davantage et on voit à quel point toute la filière de la construction est à l'arrêt aujourd'hui.
Il y a eu cette velléité en tout cas récemment de mieux contrôler la conformité.
Mais en réalité, voilà. Si vous regardez, les contrôles, ils sont faits. Vous avez d'ores et déjà des surloyers. Bon. Pour moi, c'est de l'affichage.
Après, il y a un sujet, c'est le pouvoir du maire sur le permis de construire. Il est seul avec ce pouvoir aujourd'hui. Et à 2 ans de fin de mandature...
Et à 2 ans...
Il aime l'envie. Ouais. Ça, c'est un sujet que je prépare. Il se targue même d'arrêter de construire. Vous avez des maires qui se targuent même d'arrêter.
Et donc, parce que c'est électoralement,
c'est extrêmement compliqué politiquement.
On est d'accord. Oui.
Et puis, une chose aussi dont on parle assez rarement, c'est que les organismes HLM ont aussi une vocation à ne pas être déficitaires. Donc, fait, on ne peut pas garder, virer les gens qui payent le mieux, les plus régulièrement.
Il y a une question d'équilibre financier,
voilà, donc dont on parle assez rarement.
Voilà pour cette parenthèse logement et quelle parenthèse. Merci Marie, merci de passer nous voir. À très vite avec plaisir. Marie Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. 19h52, c'est l'extra time pour terminer. Vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes. Vous voulez tenir les 30 secondes, c'est pas évident parce que quand le cœur parle, évidemment, c'est plus compliqué. Isabelle, voulez-vous commencer 30 secondes?
Eh bien, pourquoi pas. Moi, j'ai été... Alors, c'est un coup de gueule, en fait. Et j'ai, comme vous l'avez vu, j'ai été assez impressionnée par le discours hier du Premier ministre Barnier qui, finalement, fait du... En même temps, c'est peut-être le en même temps que Macron n'avait jamais réussi à faire. Et en face de lui, il avait une partie de l'hémicycle qui n'était pas dans l'écoute, pas dans le respect. On y était habitué depuis certaines années. Mais là, je trouve que c'était d'autant plus flagrant. Et il y a eu un moment où il a expliqué de manière assez clair qu'il fallait faire attention parce que la République était fragile.
Oui.
Et à ce moment-là, qu'il fallait prendre soin de la République. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une partie de l'hémicycle qui a applaudi et je trouve ça extrêmement grave et qu'il faut le souligner.
Le coup de gueule ce soir d'Isabelle Bordry. Wilfried Galland, 30 secondes mon cher Wilfried.
Et moi, non pas ma surprise, mais ma déception, ça a été que lorsque on voit par exemple le débat des vice-présidents américains, on s'aperçoit que l'Europe, y compris l'Ukraine, n'est absolument pas présente. C'est-à-dire qu'en fait, on a disparu des débats de notre premier soutien militaire et aussi économique. Et en fait, on n'existe plus sur le plan politique américain. On voit que ce que Barack Obama disait, c'est-à-dire l'avenir du monde, se jouera entre New Delhi... Et Tokyo est véritablement
en train de se réaliser. C'était le débat des colistiers la nuit dernière aux États-Unis, bien sûr. Emmanuel Botta, 30 secondes.
Alors moi, pour équilibrer, je vais être sur un coup de cœur, sur la création d'un livret d'épargne dédié à l'industrie. Alors, je sais que c'est pas une première, effectivement, mais je pense que c'est une vraie bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on nous rabat les oreilles, si je puis dire, des startups, etc. Mais on oublie que l'industrie, c'est quand même aujourd'hui encore 12% des emplois salariés, que ça crée des vrais écosystèmes dans les territoires, que ça ancre les familles, donc des enfants, dont des écoles, et aussi du coup ça attire des médecins, ça permet aussi de lutter contre les extrêmes, ça on l'a vu aussi, en tout cas on le voit quand les usines ferment, et enfin ça permet aussi de renforcer l'autonomie stratégique, et ça on l'a vu un peu cruellement pendant la crise du Covid.
Drainer l'épargne des Français toujours vers l'économie...
Ce n'est pas nouveau, mais si on y arrive...
Un nouveau livret de développement industriel.
Eh bien, on va le tenter à nouveau. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Isabelle Bordry, Wilfried Galland, Emmanuel Botta. Merci, à très vite, avec plaisir, pour nouvelles aventures. 19h55, je vous donne les deux grands titres de l'actualité. D'abord, cet effort sans précédent qui va être demandé dans le cadre du PLF 2025, 60 milliards d'euros d'efforts.
Tout ça pour ramener les déficits juste à 5% du PIB à la fin de l'année prochaine. Projet qui sera présenté au Conseil des ministres jeudi prochain. Puis les prix du pétrole en légère baisse ce soir. Le baril de Brent un petit peu en dessous des 74$ dans l'attente, bien sûr, de la riposte israélienne sur l'Iran. 19h55, Tekkenco. François Sorel et toute l'équipe dans un instant. Et nous, on se retrouve bien sûr demain soir, 18h, pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.